qu'on aime que la musique plaise aux enfants, plaise aux parents. Enfin voilà, donc il y a un truc quand même. On fait pas une musique triste ou pointue ou négative. Enfin voilà, qui vient de la douleur. On fait une musique qui invite et qui doit faire plaisir aux gens.
Le mainstream, en fait, je pense, il est peut-être pas dans la sélection de ce qu'on fait, mais par contre, il est dans notre nécessité inconsciente de faire danser les gens ou de faire plaisir aux gens.
Après, pour le live, ouais, on a samplé tout le studio aussi. Nico, il a samplé tout le studio. Ouais,
ouais, Nico, elle a
note par note,
tout le studio,
avec tous les presets. Enfin bon, on a une bibliothèque de ouf. Mais ça fait 2 ans qu'il fait ça. Et quand on se promène dans notre Ableton, bah, on a le Moog, on a des presets de plein de trucs.
On a un dossier homemade.
On peut proder les maquettes avec tous les sons analogiques et ensuite, le refaire limite si on veut. Mais ouais, ça, c'était un truc important. On parlait d'exotisme et le fait de voyager. Voilà, aujourd'hui, on est 2 mâles blancs et on est dans un moment culturel où on peut se dire, ok, les gars, vous faites une musique africaine, une fusée. Voilà, il y a une question là-dessus qui est dans la culture et qui est bien ou pas bien. D'ailleurs, on peut discuter de ça.
Il faut se prendre des claques. Il faut être bien entouré de gens qui disent, tu fermes ta gueule aussi. Tu n'es rien encore. T'as le potentiel, mais il faut que tu crois en toi. Par contre, il faut toujours être bien accompagné. Il y a le pouvoir de dire non aussi.
Et oui, vous l'avez vu, on est avec Polo and Pan, Daz. On va discuter de musique, de leur carrière, de leur parcours. Ça va être forcément intéressant.
Évidemment.
C'est l'épisode 89 de DLT.
C'est parti.
Let's go. Comment vas-tu, mon cher Daz?
Eh bien, ça va.
Écoute,
depuis hier, on se quitte plus.
Ça fait 15 jours en réalité pour nos auditeurs.
Oui, mais une émission par jour garde le médecin à l'écart, comme on dit en anglais. Donc, moi, je suis ravi d'être ici pour parler musique parce que ça suffit maintenant le business.
Oui.
Et dès qu'on a des gens qui sont dans le business, je dis ça suffit, les artistes.
C'est vrai, parce que le dernier épisode, on a fait ça avec les gars de Arc. Je sais pas si vous connaissez ce disquaire à la fois réparateur et tout qui est dans le 11e arrondissement. Bref, en tout cas, on a parlé un peu de comment écouter de la musique en 2025, quel est l'intérêt des différents supports.
L'audiophilie,
du matérialifi, ce genre de choses. Je sais pas si vous êtes un peu dans ces délires, ça vous intéresse l'écoute à la maison, d'avoir un beau système par exemple ou
Ouais. Bah, on a surtout différents types d'écoute parce qu'on a aussi la nécessité de savoir comment les gens écoutent. Et donc, nous, on fait aussi des morceaux en les écoutant de différentes façons pour être sûr que dans tous les cas, ils sont accueillants. Quoi.
Ouais, non, mais l'envie d'avoir un super sound system, mais j'avoue, chez moi, j'ai toujours pas trouvé entre quand t'essayes de faire le truc audiophile avec un bel ampli, les enceintes un peu à papa pour écouter les disques de jazz, j'ai toujours pas réussi à trouver le sweet spot. Donc,
mais c'est un objectif.
C'est un objectif. Il me reste un super live goal là-dessus.
Bon, merci en tout cas, les gars, d'être avec nous.
Mais oui.
Donc, on a Polo qui est à notre gauche. On a aussi Pan, Pan. Paul, Alex, ça vous va? Comment on dit, vous préférez?
Ouais, super. Ouais.
C'est comme tu le sens.
Écoutez, oui. Puisque c'est Alexandre Grispan, le pan d'ailleurs, peut-être qu'il
en fait,
ça marche.
En fait, c'est Grinspan ou Grinspan, donc en fait, tu vois, ça dépend de l'interlocuteur.
Ouais. Donc les deux fonctionnent, on n'aura pas la réponse.
Absolument. Et pour Paul Armand de Lille, bon, bah, Paul, ça va quoi.
Ouais, ça c'était facile.
Non, tu peux dire Paulo.
Paulo. Très bien. En plus, c'est vrai que tu es franco-américain, si je dis pas de bêtises.
Exact, tout à fait, ouais.
Ça va, c'est facile à vivre en ce moment ou pas?
Maman américaine.
On va pas parler politique.
Ouais. Parlons pas politique.
Ouais, parlons pas politique.
Je vous présente quand même brièvement. Bon, je pense que beaucoup de gens connaissent votre duo, mais je précise quand même que donc vous êtes un duo de musique électronique, formé au début des années 2010, Daz à peu près. Okay. Initialement producteur et DJ chacun de votre côté. Vous avez déjà raconté cette histoire, vous étiez DJ au sein d'un même club, le Baron à l'époque. Vous rencontrez, vous mettez à composer ensemble. C'est assez vite derrière naît un premier EP, enfin il y a quelques morceaux d'abord qui sont release, puis un premier EP de Rossi, puis un tournant vers 2016 avec un single qui s'appelle Canopé, dans la foulée un album 2017 qui va vraiment c'est un vrai succès tout d'un coup, dans le sens où jusque là ça prend petit à petit, mais j'ai l'impression quand même qu'avec Canopé il y a un truc qui se passe à ce moment là vous êtes d'accord avec ça ou...
Ça reste notre morceau qui stream le plus, donc on a fait quelque chose de super bien avec Canopé, c'est sûr. Mais on a toujours une espèce de progression quand même assez linéaire depuis le début, depuis notre premier morceau Rivolta. Tout de suite un petit succès d'estime, et voilà, ça a monté petit à petit. Ça n'a pas explosé non plus avec Caravelle, voilà. Mais cet EP, forcément, il continue à streamer et à être, il est porté sur le long terme, quoi. C'est ça qui est cool.
Et ça vous saoule pas trop qu'on vous parle à chaque fois de ce morceau fondateur de votre succès et de votre...
Non, pas forcément. Déjà, on est fiers.
Fiers
de ce morceau, fiers de le jouer encore en live. Et en fait, on a toujours estimé que si on sortait des morceaux, c'était qu'on on estimait qu'ils étaient prêts à être sortis et si on les regrette. Je pense que le moment où on l'a le plus détesté, c'était juste avant qu'ils sortent, parce qu'on l'a écouté mille fois pour être sûr. Ouais. Et en fait, on a réappris à l'aimer au fur et à mesure. Et... Ouais. Non, non.
Non, ouais. Non, je parle pas par rapport à la fierté de sortir le morceau, mais plus effectivement quand c'est un carton comme ça, du coup, le truc t'appartient plus trop. Les gens se l'approprient et peut-être que, enfin, certains artistes, ça les blase un petit peu qu'à chaque fois on les ramène à ce truc.
Ça va, on continue à le jouer sur scène, à prendre du plaisir. C'est un morceau qui est quand même cool et voilà, c'est pas un truc de DM super, enfin, ou qui, ouais. qui est vraiment, voilà, oui, qui serait prise de tête et ouais, c'est un morceau plutôt chill, donc ça va écouter.
Ouais, puis c'est pas forcément un carton. Enfin, je me souviens à sa sortie, nous on avait déjà une communauté, bon, relativement grosse ou pas, c'était un peu du bouche à oreille à l'époque. Les gens l'adoraient, mais les radios l'ont pas vraiment passé. On correspondait pas à un flux précis des grandes ondes. Non, on a été aussi confrontés au fait que ce soit un morceau qui voyage un peu par lui-même et par beaucoup Internet.
J'allais dire, parce que, bon, je m'intéressais déjà beaucoup à la musique à ce moment-là, mais moi, je vous découvre en 2016 avec Canopée. Donc, je pense que beaucoup de gens, en fait, c'est par cet intermédiaire-là qu'ils ont vraiment dit « Ok, je vois qu'ils sont Polon Pan, quoi. » En tout cas, vous avez cité Caravel, donc qui est le premier album, 2017. Derrière, c'est assez impressionnant parce que vous allez à la fois tourner en France, bien sûr, mais aussi à l'étranger, beaucoup. Les États-Unis, même, c'est vraiment un territoire qui vous tenait à cœur. Vous allez vous attaquer, entre guillemets, aux États-Unis. Ça va vous mener même jusqu'à Coachella en 2019, qui est quand même un des festivals les plus difficiles d'accès du monde, je pense, d'As, tu vois.
Ouais, je suis d'accord. J'ai essayé moi-même et.
Ils t'ont pas pris, ils t'ont pas volé. Il y a un deuxième album en 2021 qui est Cyclorama. Votre musique, à ce moment-là, utilisée aussi dans des publicités par Apple. Énorme boîte quand même.
Ah, ouais, ça, ouais. Là,
c'est ouais. Vraiment effectivement ce côté succès linéaire. On voit que au fur et à mesure du temps, ça prend de plus en plus. Et puis, en marqueur un peu de l'importance que vous avez pris, bah, il n'y a pas longtemps, là, les JO, clôture, cérémonie de clôture des Paralympiques. Ils organisent, tu sais, avec énormément de DJ et de personnes importantes de la musique électronique française, dans l'histoire même de la musique électronique. Polon Pan sont là. C'est-à-dire qu'ils étaient à côté, tu sais, de Pedro Winter, de Breakbot, de Jean-Michel Jarre, d'Étienne de Crécy, d'Alan Brax, d'Aneta pour des générations plus récentes.
De Miss Kittin, de Chloé.
Bien sûr, il y en a plein d'autres. Mais en tout cas, vous avez été intégré à cette scène-là. Et je pense que pour vous, d'ailleurs, ça avait un sens particulier, symboliquement, non?
Ouais, à nouveau, c'est une étape, mais qui était. Génial, on était super genre heureux d'être invité et c'est vrai qu'on s'en est pas forcément rendu compte avant de vraiment de vivre l'événement, de voir tous ces gens voilà faire leur partie musicale et c'était génial en fait, juste d'être aussi avec les athlètes. C'était vraiment un moment spécial pour nous parce qu'on n'a pas forcément fait beaucoup de choses avec le sport. Et là, c'était vraiment.
On a quand même fait FIFA avec Tunnel.
Ouais.
Ah, il y a un morceau dans FIFA.
C'est en FIFA. Moi, pour moi, c'est le. Là, c'était le.
Vous vous rappelez, c'est dans quel FIFA
dans 23, bien sûr.
23. Il reste GTA et on est bon, je pense.
Là, ouais, parce que moi, je faisais des compètes quand j'étais petit de FIFA et de PES.
Ouais.
Bon, je vais pas m'étendre là-dessus, mais.
Mais si, on peut.
Ah ouais. T'as gardé un petit niveau ou pas?
Pas mal.
Salman est chaud sur FIFA.
Ah ouais, ça joue pas mal, effectivement.
Ouais, mais c'était un de mes grâles.
Ah ouais, bien sûr.
Mais que ce soit Apple ou j'ai absolument aucune pudeur à dire que je suis très fier aussi avec Polo qu'on ait fait Apple, parce que c'est un outil qu'on utilise depuis le début et qui nous a beaucoup aidé, qui est très intuitif. Donc, quelle fierté, on a fait 4 pubs Apple. On est le seul groupe qui a fait.
Vous savez pour quel produit ou c'était quoi?
La première, c'était l'iPhone 10. C'était
non,
Nana.
On a fait Apple Watch Dorothy en premier.
Ah, ok, d'accord. Bon,
tu vois, je sais. T'as vu comme ça lui tient à cœur? Il dit, non, d'abord, c'est Apple Watch.
Non, pardon. Non, mais c'est vrai que dans l'analogie, c'était d'ailleurs notre première synchro, ce qu'on appelle synchro, c'est-à-dire musique de pub. D'ailleurs, c'était la plus mauvaise campagne d'Apple, je me souviens. Je crois qu'ils l'ont gardé 2 semaines.
C'est pas lié au morceau. Parce que effectivement, ouais, l'Apple Watch, après l'iPhone 10, tu disais?
Mais l'iPhone 10 avec Nana, c'est vrai que c'était un petit step aux US, je pense aussi, qui nous a amené un petit peu vers Coachella, qui fait que le morceau a été repris. Enfin, voilà, qui nous a rendu un peu plus visible. Mais on était déjà présents en faisant des petites tournées. Voilà, nous-mêmes, effectivement, on avait choisi d'essayer de développer les US. Et c'est presque un des seuls territoires où on s'est fait la tournée vraiment un peu. Galère, viens, on y va, on se met un peu en danger, on était juste avec un techo, on se promène, on installe notre son tous les jours. Des balances un peu compliquées, des petites salles, mais des super souvenirs aussi.
Ouais, c'est vrai qu'on a commencé notre première tournée, c'était des salles de 200 à 300 personnes avec 90% d'expats, de français. Mais on l'a fait, on a eu aussi quand même des tourneurs et une maison 10 qui a pris des risques très vite avec nous et qui ont investi à perte pour qu'on puisse... moi, je connais plein de groupes qui n'ont pas eu cette chance, qui auraient cartonné aux US, mais qui n'ont pas eu derrière la structure, qui ont pris des risques. Et nous, on y est allé. On a fait notre cinquième ou sixième tournée même, je pense, là.
Ouais, ouais. Bah.
Qu'on risque d'attaquer bientôt. Mais en fait, on a fait aussi un gros travail de terrain. Parce que maintenant, on est le seul groupe français qui va faire Coachella cette année.
Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, Daz, ils le refont cette année, effectivement.
Ouais, donc ça a marché. Ouais. Ok.
Moi, je me suis cassé le pied juste avant la première tournée. Donc je l'ai fait en chaise roulante. Enfin, je faisais des aéroports en chaise roulante et les concerts avec où je faisais tourner ma béquille et machin. Bon, c'était.
Là, il n'a pas annulé, c'était.
Mais j'ai pas annulé. Voilà, on y est allé. On s'est
donc
dit qu'on
le faisait. En échange, j'ai porté toutes ses valises.
Donc effectivement, ça c'est l'actu Coachella cette année. Et puis surtout, au moment où est diffusée cette émission, un troisième album qui est sorti déjà.
Ce sera diffusé.
Et ça aussi, on en parlera puisque c'est la nouveauté d'Az. Bon, en tout cas, je suis content qu'on fasse cette émission avec vous parce que, de une, vous avez fait assez peu d'interviews longues, comme on va le faire.
C'est vrai.
Et de deux, parce qu'on en parlait un tout petit peu avant l'émission, vous avez su imposer une forme de patte sonore et je le disais, c'est extrêmement rare. C'est-à-dire qu'on écoute un morceau, on se dit, ok, ça, je sais qui c'est. Ce qui est à la fois admirable parce que c'est difficile et à la fois aussi peut les ouvrir à des critiques d'une part parce que si on n'est pas adepte de cette patte sonore on dit bon les gars ça me plaît pas et puis surtout il faut être en capacité de la renouveler, d'être un peu innovant, d'être créatif sans se couper d'un public j'imagine, enfin c'est des réflexions que vous avez forcément menées plus ou moins consciemment et j'aimerais bien qu'on en discute, voilà.
Clairement, c'est des réflexions, en tout cas, c'est ouais qu'on a beaucoup entendu. On l'a pas forcément fait consciemment. On a choisi un petit peu.
Ouais,
on a choisi un peu des éléments sonores. On a beaucoup. Alex, en fait, moi, c'est vrai quand on est arrivé, moi, j'étais dans un studio, je faisais beaucoup de projets. J'étais vraiment 360 et j'avais pas forcément une DA. Et Alex, il est arrivé plus avec. Viens, on choisit une basse, on choisit un kick, et ça a vachement aidé justement à définir ce son. Donc,
vous savez, enfin, moi je disais, viens, on choisit une basse, et Paul, il choisissait la basse. Non, mais c'était assez dingue parce qu'on
peut se plonger justement. Pardon, je vous interromps.
Interromps-nous.
Commençons justement en reprenant un peu les débuts rapidement, parce qu'il y a des histoires que vous avez déjà racontées, mais je suis sûr qu'il y a d'autres choses dont vous n'avez jamais parlé. En parlant de cette idée, donc il y a le club avant tout qui vous réunit. Vous commencez à faire de la musique, donc je l'ai dit, DJ au Baron, etc. Vous faites de la musique ensemble. Et là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a une forme de chacun amène ses compétences d'une certaine manière dans un premier temps, c'est ça ?
C'est la vision en tout cas. Ouais. Oui, ses compétences. Je vais être très honnête. Moi, je suis arrivé par un concours de circonstances assez génial dans le studio de Paul. Parce que lui avait son studio et pas moi. Lui, il avait ce qu'on appelle un préamp Nive, qui est un peu le summum, le goat, quoi, pour créer un son. Et moi, en fait, j'avais juste mon ordi avec des idées, des choses que j'arrivais pas à faire. Et en fait, notre rencontre a fait que tout s'imbriquait de façon parfaite, autant créativement chacun de son côté, que des petites tricks, des astuces.
Des capacités techniques aussi, etc.
Ouais, assez complémentaire. Enfin, moi, par exemple, j'étais plus depuis 10 ans quasiment en train d'essayer de faire de la prod et acheter un petit peu du matériel.
Y compris pour d'autres gens, par exemple.
Pour d'autres gens aussi, j'avais fait un disque Open Space and Stars, un groupe un peu de rock. J'avais produit quelques personnes, j'ai produit un groupe qui s'appelle Wall-Eyed de rock psyché, enfin voilà, j'ai fait un peu des trucs d'électro, j'ai fait pas mal de choses, du hip-hop, enfin, mais et en fait quand j'ai rencontré Alex, je rentrais d'un voyage au Maroc où j'ai passé 3 mois à Taroudan à enregistrer avec des Gnawa, j'avais fait un disque, un projet qui s'appelle Atlas Collective, où en fait là j'avais vraiment découvert tout d'un coup le plaisir de la collaboration en me disant ouais, c'est 10 fois mieux quand je me mets moins dedans et que je laisse les autres faire, et c'est là où c'est cool. Et du coup, je cherchais vraiment, je collaborais pas mal. Et voilà, Alex est arrivé au bon moment où j'avais vraiment de la place pour laisser une autre personne travailler avec moi et pas avoir juste besoin de mettre mon ego. Il y avait un truc, voilà, je mûrissais un petit peu en tant que personne. Et Alex est arrivé avec des points de vue vachement tranchants sur le son et ça m'a vachement aidé, en fait, quoi.
Toi, Alex, à ce moment-là, niveau compo, niveau prod, etc., tu bossais avec d'autres gens, Alors, je sais que vous aviez chacun vraiment vos projets perso aussi, notamment en tant que DJ, mais est-ce que tu avais un background déjà derrière toi, entre guillemets ?
Moi, je n'existais pas officiellement. C'est-à-dire que moi, déjà, j'étais DJ, j'ai eu une carrière personnelle qui était déjà assez fast. Enfin, pendant 10 ans, j'ai vraiment voyagé, j'ai fait beaucoup de choses. Mais par contre, j'avais une espèce de frustration d'avoir des idées, mais de pas arriver à les concrétiser comme il fallait. J'avais tout un tas de petits boui-boui sur mon live d'Ableton que je maîtrisais pas si bien. Et en fait, J'ai croisé Paul. C'est quand même drôle cette façon qu'on a eu de communier, parce qu'on était résidents tous les deux au Baron. Mais la fois qui a été game changer, c'est que je mixais dans un club au Mexique et que devant moi, je vois Paul. Je l'avais Paul, mais trop drôle. Et lui était là avec un pote parce qu'il faisait mixer pour un autre truc, machin. Il était là par hasard.
Pour un enterrement de vie de garçon avec avec une troupe de gars un peu énervés. Mais je vois Alex, je fais trop bien, on va passer une bonne soirée.
Et à l'époque, c'était pas
Mac.
Non, justement.
Ah.
C'est j'ai mon ordi avec mon boîtier, mon truc. C'était encore. Le setup était pas aussi facile qu'arriver. Donc il y a eu quand même ce truc de vas-y, viens, pose ton ordi, ton boîtier, ton truc. Et on a fait on a mixé pour la première fois ensemble au Mexique. Et 5 jours plus tard, on rentre à Paris et il m'envoie un texto. Merci, t'es vraiment le meilleur DJ du monde. Et,
c'est vrai, c'est parti là.
Non, il me dit, c'était trop cool de se voir. Tu sais, j'aimerais trop que tu passes me voir dans mon studio. Je viens te chercher en polo. Je viens te chercher parce qu'il avait un peu anticipé que comme c'était Agnières et que j'étais un peu fainéant, il fallait venir.
J'ai fait le personnage, je me suis dit, il faut le séduire un peu,
il faut
dorloter.
Il est venu me chercher. Il est venu me chercher en bas de chez moi, en polo, je me souviens. Et en fait, il m'a amené dans son laboratoire, quoi. Moi, j'ai halluciné.
Ouais, la Sierra, c'était 4000 mètres carrés, une ancienne usine, une ancienne imprimerie où il y avait des skateboards pour traverser, enfin, un truc où on vivait là-bas en tant qu'artiste. Okay. On avait des gros apparts, c'était un espèce de squat un peu. Sur les premières années, on n'était pas très structuré à la Sierra. Donc, c'était un peu le bordel, mais c'était un joyeux bordel. Et Alex arrivait à ce moment-là. On recevait, par exemple, la Dinart ou la Concrète.
Ouais, la Concrète.
Quand ils ont fermé, ils venaient faire des teufs. Donc, il y avait 20 heures de teufs toutes les deux semaines.
À la fin de nos studios, il y avait Ben Clock qui mixait à côté. Ouais,
voilà. On se faisait des petites sessions électro ensemble. On allait voir. Donc, ouais, c'était un moment un peu fou. Et Alex est arrivé à ce moment-là. Et c'est vrai que dès qu'on a commencé à faire du son ensemble, le premier morceau Rivolta, tout de suite, a attiré l'oreille des gens un peu autour de nous qui étaient les DJ du Baron et voilà j'ai fait ah ouais c'est cool, j'avais fait essayer avec plein d'autres gens et ce que je faisais avec Alex
et pareillement j'avais essayé avec d'autres gens et ça avait pas fonctionné quoi.
Est-ce que c'est non, ça fonctionne parce qu'il y a un truc humain j'imagine forcément déjà entre les deux, enfin sinon ça peut pas fonctionner si tu t'entends pas un peu humainement.
Ouais. Il y a excuse-moi de te couper mais c'est ce qu'on appelle un kairos.
Le kairos,
c'est cette faculté assez miraculeuse de choper une opportunité, mais au bon moment. Mmh. C'est-à-dire que tu la provoques pas ou tu passes pas à côté, mais en fait, comme il disait, lui, il était dans la meilleure disposition pour m'accueillir, et ouais. Moi, j'avais vraiment une obsession pour enfin faire un bon morceau ou un truc exister autrement que par le mix. Et on a senti qu'à ce moment-là, il fallait absolument qu'on matche les deux. Mais
le bon timing aussi.
Ouais, bon endroit au bon moment. Et il y a forcément aussi, je pense, une fascination l'un pour l'autre pour nos différences. Et ensuite, le fait qu'on fasse des choses bien ensemble, et c'est ça. Voilà, on n'était pas forcément amis encore. On venait juste de voir, on se connaissait un peu de loin comme ça. Mais on a tout de suite vu qu'on faisait quelque chose de bien ensemble. Et ça valait le coup de sonder plus loin. Et c'est ce qu'on fait depuis 12 ans.
Là, c'est grâce au Mexique alors, parce que ça se trouve, vous seriez croisé dans une soirée à Paris, vous auriez dit ouais bon bah
mais c'est la vie normale. C'est vrai que c'est il y a eu un côté quand même assez coïncidentiel.
Coïncidental.
Je sais pas. C'était une coïncidence en tout cas.
Ouais, désolé, je crois que je me suis un petit peu emballé sur le néologisme, c'est vrai que ça a participé. Et d'ailleurs, on rend aussi hommage à la coïncidence dans l'album, on en parlera peut-être après. Mais c'est ça, c'est un concours de circonstances sur lequel, à un moment donné, tu te dois de le voir. Tu ne dois pas passer à côté, tu dois le respecter, c'est assez fragile. Ça m'est déjà arrivé de voir qu'il y a un truc qui est là devant moi, mais que ce n'est pas encore le bon moment, et je le laisse un peu mûrir, quitte à ce que je le rate. Et là, en fait, tous les deux, non seulement on l'a vu, mais en plus, naturellement, c'était évident. On était en studio, concrètement, on a fait un truc qui était bien.
Ouais, je pense que ça faisait longtemps qu'on était DJ résident. On avait envie d'autre chose, justement. On a envie de créer de la musique et c'était le bon moment aussi dans notre vie, en fait, pour passer un peu à l'étape supérieure.
Et sur, d'ailleurs, parce que ça, c'est un truc qu'on pose souvent, le côté background, est-ce qu'il y a une formation musicale, chacun de votre côté, initialement? Est-ce que... J'ai vu un TikTok pour toi, Alex, par exemple. Je sais pas si c'était une blague, entre guillemets, sur ton Insta, où tu parles de battle de rap à une époque où t'étais DJ, c'est une blague ou vraiment t'as fait ça?
Alors, Polo et moi, on est des gros fans de rap français à l'époque. On adore la musique classique et de l'autre côté, il y a le rap français.
Okay. On s'est français, bien retrouvé. Spécifiquement, quoi.
Ouais, de jusqu'à 2001, quoi.
Oh, ouais.
Et
on a les refs, on a les refs.
Ouais, j'en suis sûr. Mais on a toujours été attirés. Ouais, moi, l'univers de la battle, je l'ai toujours adoré, mais de façon vertueuse. Peut-être que j'ai dit ça, mais je ferai pas de.
Il a perdu toutes ses battles.
Je ferai pas une saison.
C'est ce qu'il est en train de dire.
non, mais par contre, j'adore. C'est ce que je retrouve vachement dans les ping-pong en DJ. C'est ce truc vertueux où Polo souvent, par exemple, prépare jamais nos sets. Et c'est ce truc vertueux où Polo va pas me challenger, mais c'est va mettre au bon moment le bon morceau et indubitablement.
On est parti sur du lexique compliqué. Okay.
Il a bien dit, très bien.
Il a sorti fluide.
Ouais, t'inquiète, je vais en placer 3-4, c'est un challenge.
Ok.
Non, et subrepticement en plus, je me. Il était très mal placé. Non, mais c'est vrai que c'est harmonieux. Le battle, moi je trouve ça génial parce que c'est toujours dans des bonnes règles. C'est comme un combat de boxe aussi, c'est quelque chose à la fin tu te respectes ou du rugby. Mais
en tant que DJ, t'as pu animer des battles? Ça t'est arrivé?
Alors il y avait les iPod battles. Okay. On était déjà, on n'était plus dans le vinyle là. Uh-huh. Moi j'ai vraiment jamais animé de battle. Par contre, je les ai toujours écoutés.
Ça c'était un truc à un moment, effectivement. C'était quoi? C'était un truc de DJ entre guillemets, c'est l'iPod Battle. C'est-à-dire que tu ramènes tes sons dans ton iPod et il y a.
C'est un concours de qui va mettre le morceau qui va faire le plus danser les gens.
C'était... Au Paris-Paris.
Au Paris-Paris.
Non, moi je me souviens que j'y allais et que j'étais. En fait, je faisais pas du tout partie encore de. Des gens, j'étais pas connecté dans Paris, mais j'ai eu un peu un réveil autour de 2005-2004, au moment où le Baron et le Paris-Paris ont été créés. J'ai fait, ah ouais, ça c'est une nuit que j'adore. J'allais avant un petit peu au Bateau Phare, j'avais découvert la Deep House et je mixais du vinyle. Mais là, avec cette phase-là dans Paris, j'ai fait, ça m'excitait vraiment. J'ai trouvé ça vraiment cool. Je voyais les gens, c'était plus jeune, c'était plus rigolo. Et j'allais au iPod Battle. Je les ai regardés. J'aurais adoré. Je préparais mes iPods pour le battle qu'un jour je pourrais peut-être faire.
Qui n'est jamais arrivé.
Non. Voilà, j'étais pas sollicité à l'époque. Voilà.
Et moi non plus, hein. J'étais en spectateur. Hein.
J'étais
en spectateur. Mais j'étais placé devant toi.
Et formation musicale alors? Est-ce que instrumentiste par exemple ou pas forcément?
Petite formation musicale dans le sens où moi j'ai fait un peu de solfège quand j'avais 7 ans, mais bizarrement mes parents m'ont pas fait faire d'instrument. J'ai fait un an de solfège ou deux sans instrument, donc j'ai pas compris le truc quoi. C'est vraiment le truc pour se rendre fou. Mais c'est un petit peu resté. Puis à 13 ans j'ai fait un peu de guitare classique pendant un an je crois. Ensuite j'ai lâché ça et puis voilà, c'est plutôt à 18 ans où j'ai une espèce d'illumination sur les... En écoutant le disque Moon Safari de Herc, tout d'un coup, je me suis dit, ah ouais, j'ai vraiment envie de m'en mettre dans la musique, et j'ai recommencé à jouer de la guitare, j'ai acheté un ordi, des platines, enfin voilà, je me suis vraiment mis passionné de musique.
Ouais, mais t'avais un père qui était hyper passionné aussi.
J'ai un père qui est un super guitariste, mais presque tellement bon, il m'a pas vraiment appris non plus, et c'était un peu écrasant. La culture familiale des super musiciens, et je me suis dit, je suis trop vieux. On me disait, à 7 ans, t'es pas un génie. Non, c'est fini. C'est plié, mon gars, fallait être bon à 5 ans. Donc il y avait un peu ce truc là quoi.
Ouais, ça peut être paralysant d'avoir quelqu'un.
Et
de très
voilà, moi j'ai pris finalement des cours de piano à 30 ans. Je me dis maintenant j'aimerais retravailler. Voilà, ça, y a pas d'âge pour y aller du moment qu'on a envie, qu'on met le temps. Et c'est surtout prendre le temps quoi. Plus on est âgé, faut prendre le temps.
Quelle
quoi.
Leçon tu nous donnes.
Tu veux pas t'y mettre toi, Dave?
Moi j'adorerais, mais je me dis ouais. Là,
je peux faire le grand écart, je pense. Ouais. C'est tous les jours.
Bah non, mais regarde, si Polo vient de te dire le contraire.
Ouais. Non,
moi
mais
j'admire
temps,
tous mes potes qui. J'ai des potes à 36 ans qui décident de reprendre les études et qui changent de voie et qui d'un coup. Mais c'est tellement génial de voir que ça existe.
Je suis pas fermé à l'idée. Ouais. J'ai un clavier à la maison. Voilà, donc. De temps en temps, je passe comme ça. Après, je vois Iris jouer sur le piano ici, et je dis, ouais, bon, bah, laisse tomber.
Ouais.
C'est ça le problème, quand tu vois toujours... des gens qui sont bons.
Mais il y a toujours meilleur que toi, et en fait, c'est ton plaisir, c'est toi aussi, voilà. Donc, il faut y aller humblement, et il faut pas hésiter à tenter le truc.
Voilà, Iris, arrête de jouer du piano. Alors.
Tu l'impressionnes, arrête d'impressionner. Ce que je vous propose, c'est maintenant qu'on sait un peu d'où vous venez, qu'on en
arrive. Alors moi, pour ma part, je n'ai pas parlé de mon background musical.
C'est vrai.
Mais parce que Polo m'écrase.
Mais non. Dis-nous, tu avais de formation, toi.
Je rigole. Au contraire, justement, on a vraiment cette capacité à se se motiver et se rassurer ensemble, vraiment. On le retrouve même encore dans le dernier album, c'est fascinant et tellement agréable. Mais moi, c'est drôle parce que j'ai commencé à 5 ans, comme tu disais, moi, le piano, j'ai fait piano, violoncelle, mais par contre, j'ai quand même été un peu écrasé aussi. J'ai un père qui était aussi un énorme collectionneur de musique classique, et j'ai fait beaucoup de violoncelle, de trucs, et j'ai commencé à faire du violoncelle avec mon père, qui était censé être de la complicité, mais non, en fait, il y avait une espèce de whiplash qui s'était installé.
Henri, son père, qu'on embrasse, mais c'est vrai que c'est quelqu'un d'impressionnant, par sa voix grave et puissante.
Alexandre Non, mais très exigeant, et en fait, si bien qu'il m'a dégoûté de la musique classique, et que je lui ai dit, ah ouais, tu sais quoi? Et à 13 ans, j'ai fait du djembé, tu vois.
Ouais, c'est vraiment le.
L'air de rien, bah en fait, j'ai eu un background musical. Après, juste pour faire chez mon père, j'étais à fond dans le rap français et dans le djembé sur le canal Saint-Martin et à la fête de la musique.
Okay.
Et l'air de rien, bah en fait, j'ai eu quand même deux bases antinomiques. Plus 500 points pour celui-là. Ouais.
Mais facile à prononcer. Donc,
ouais, j'avoue.
Moi, je compte les syllabes.
Tu connais des... ouais. Très bien, c'est vrai.
Ouais, parce que c'est un peu comme une dépolarisation, en fait, des deux genres. Bon, j'arrête, promis, j'arrête. Non, mais et en fait, j'ai par contre un peu comme Polo, on n'est pas des très grands performeurs, on n'est pas des grands. Moi, j'ai pas fait assez de musique, je me suis arrêté trop tôt, ça m'a un peu dégoûté. Donc, on a un background, comme ça, on a une sorte de science, on a fait du solfège, mais on est quand même plus des producteurs, et c'est peut-être ce qui nous a aussi. Pousser à avoir notre son, hein, le son du producteur, c'est-à-dire que c'est pas que jouer du piano, que jouer, c'est transformer une matière première et essayer de lui donner un twist. Et c'est peut-être aussi comme ça que ça nous a poussé à.
Tu sais, plus du sound design que de la compo ou...
Non, ça peut être de la compo, ça peut être, mais en tout cas c'est moins de l'ordre de la performance, ouais. C'est-à-dire qu'on est moins dans le théâtre, on est plus dans le cinéma, nous. C'est-à-dire qu'on a on a un son de laboratoire, on a trouvé cette mélodie, on a trouvé son, on va faire couper. Et on va le regarder, l'admirer s'il est bien, et en fait, on va le transformer. Et c'est peut-être comme ça qu'on s'est dit, au travers de nos découvertes de sons, nos découvertes de, ou nos superpositions de sons, qu'on a réussi à trouver un son. C'était important de ne pas être trop bon musicien, peut-être.
Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute Rivolta, qui est quand même effectivement le premier morceau qui commence à tourner. Pour avoir une petite idée de quoi ça ressemble.
Dire quand même, puis... il serait peut-être temps qu'on écoute des trucs dans cette émission.
Puis on en parle après.
Allez.
A voi miei signori, io voglio andare. A voi miei signori, io voglio andare. A voi miei signori, io voglio andare. A voi miei signori. Io voglio andare.
Ça donne une petite idée, évidemment. On encourage les gens à aller écouter les morceaux en entier pour vraiment les découvrir. Il y a ce dialogue musical qui s'établit entre vous deux, avec chacun ses compétences et tout, on l'a bien compris. Enfin, en tout cas, ça match, il y a un truc, et vous trouvez un son qui vous correspond. Tu disais, Paul, d'ailleurs, à un moment, aussi, on s'arrête à un type de son de basse, un truc comme ça. Est-ce qu'il y a eu une recherche un peu de définir comme ça un son en se disant, OK, ça passera par ça aussi, par peut-être, je sais pas, tel synthé, tel plug, ou j'en sais rien, ou. Ouais, il y a eu un peu une réflexion de ce type-là ou pas?
Ouais, en tout cas, sur ce premier morceau, il y a un petit peu ça, mais pas de manière consciente parce qu'on sait pas encore vraiment ce qu'on fait. On fait juste. Mais dans ce morceau, ce qui est intéressant, c'est par exemple, il y a le balafon que j'ai ramené de Tarantino. Saroudan, mais que j'avais acheté un gamalien qui avait un gnawa qui avait ramené ça du Mali. Et il y a aussi le sample italien de Crapapé, de Quartetto Cetta, qui vient de Radio et de Alex qui bossait pour le radio.com avec les 5 O.
On en parlera.
Donc lui qui amène un petit peu l'élément sample, moi je ramène les instruments que j'ai collectionnés dans mes voyages et on ouvre déjà des micros, il y a déjà un mélange de sample, d'analogique, de et voilà, la basse c'est un plug de Moog, machin, etc. On n'a pas vraiment complètement défini notre son. Dans ce morceau qu'on n'a pas écouté en entier aussi, au milieu, il y a un changement de BPM, ce qui est un truc qu'on entend presque jamais dans la musique électronique.
Tu veux qu'on regarde, c'est
on
quoi,
passe de 116 et tout d'un coup, au milieu, ça passe à 96.
Ça ralentit.
Et ça, c'est un petit moment qui définit aussi. Les gens, quand entendent ce morceau, il a un effet sur le dance floor qui est assez ouf. Et nous, on aimait bien aussi changer souvent de BPM dans nos sets, donc ça nous dérangeait pas du tout de passer d'un BPM disco à un BPM hip-hop.
C'est vrai qu'en fait, nous, on venait aussi un peu de... Alors, je vais parler pour moi, parce que Polo, c'est légèrement différent. Polo, il a eu plus une culture club que moi. Déjà,
t'étais DJ, t'étais résident, etc. Mais t'avais pas cette culture club de base.
Moi, j'avais une culture club, mais j'avais pas la culture dans le club. C'est-à-dire que j'aimais beaucoup la musique. Par contre, déjà, on a 5 ans d'écart. Et moi, j'ai commencé à être résident au Baron, j'avais 19 ans. 5 ans avant, tu fais le calcul, j'ai 14 ans. 14 plus 5, 19.
Oui, c'est ça, okay, on est bon.
Et moi, j'étais plutôt fasciné par la musique du club, mais je l'avais jamais vécu. Et moi, je viens de l'école du Baron. Et l'école du Baron, c'est absolument pas le DJ qui est au centre de la soirée, c'est les gens. C'était un club où il y avait pas mal de personnalités différentes. Il y avait plein de. C'était un melting pot de gens intéressants. Franchement, faut être honnête. Nous, en fait, on n'était pas du tout au centre. Et donc, ça nous permettait de faire des choses différentes, mais de mettre des choses qui allaient presque à l'encontre du club, où en fait c'était une musique qui était assez linéaire, qui devait pas perturber le flux de danse ou de transe des gens, alors que nous on mettait du France Gall, Rage Again, puis du M.O.P, des trucs, okay. Et au final, eh ben nous deux on s'est accrochés et en fait on a professionnalisé ça, c'est-à-dire que au début on faisait ça, puis ça, ça, puis en fait à un moment on s'est dit waouh, c'est le même BPM, Edith Piaf et La Fièvre. Voilà. Bon, je dis New York. Et finalement, en fait, on a professionnalisé ce truc. Et on s'est dit, mais c'est la prolongation peut-être dans la production, ça serait de faire de la musique électronique, mais quitte à un peu perturber les gens dans leur flux. Donc il y a des gens qui vont détester notre musique, mais nous, on va créer de la musique narrative électronique.
Ouais, le Baron aussi, c'était l'anti-club un peu après l'époque French Touch, où on écoutait vraiment de la house filtrée avec des très gros sons, le Queen, les gros clubs. C'était un petit club où c'était cool de réécouter les Rolling Stones, la musique des parents, un peu, tu vois, de mélanger les époques, les styles. Et c'était plus comme un mariage chic, tu vois, un peu de fashion week.
Non, mais tu vois ce que je veux dire. Mariachi, mec.
Non, mais c'est un peu de la, tu vois, genre, tu peux écouter, Ray Charles, enfin, tu vois, des vrais classiques, tu vois,
t'en. Des écarts.
Et voilà, c'est pas du tout un truc où tu prends une énergie consistante. Si ça change.
De la variété de la chanson, des trucs comme ça.
Ah ouais, Edith Piaf, c'est pas du tout, voilà, c'est un jeu.
Mais c'était Edith Piaf, l'homme à la moto, où c'était la phase B de Lio, Sage comme une image, où c'était aussi prendre des risques, parce qu'en fait, on était face à des gens qui avaient déjà une culture, je pense, artistique et notamment musicale. Le but, c'était un peu d'impressionner plus dans la culture que dans le mix.
C'est pas une expérience de club. C'était une discothèque slash un bar un peu, tu vois. Enfin, voilà, avec un.
Il y avait quand même un challenge de faire danser les gens ou.
Ah, bah, c'était le challenge absolu, mais justement.
Et les gens étaient réceptifs, même sur du changement de répertoire, des trucs.
Ah, ils adorent. Ouais, ils étaient trop contents. Voilà, c'était une phase un peu aussi, tu sais, c'est le retour des Baby Rockers en 2005. Il y avait un truc plus rock. On est sorti un peu de la musique électronique pendant 5 ans et nous c'était cette phase là en fait, le Paris et surtout le Baron qui jouait vraiment plus rétro.
Ce qui est hyper intéressant, c'est que ce que vous êtes en train de nous dire, Paul, tu peux peut-être réagir là-dessus, c'est que le lieu dans lequel vous exerciez votre métier à l'époque de DJ, il a vraiment déterminé une partie de votre pratique musicale derrière.
Ah bah ouais, à fond.
Ouais, clairement.
Notre DA,
clairement. Ça aurait pas été le Baron, ça aurait pas été
mais
la musique.
C'est surtout que j'espère que les gens ne se méprennent pas, mais je n'ai pas été à l'origine de l'identité du musical du Baron. C'est que j'ai eu aussi la possibilité au début d'écouter des DJ qui avaient cette liberté-là. Je pense à Greg Boost, je pense à Bou, à Stéphanie, à Moru. En fait, il y avait tout un tas de gens qui n'étaient principalement pas DJ, mais qui étaient autre chose, et qui avaient une audace de mettre des choses. Et moi, c'est la première fois que je voyais ça. Ouais, je me disais que c'est l'audace.
C'est un peu un truc où t'as un pote qui est réel, qui est guest. Est-ce que tu veux jouer ce soir? Voilà, tu viens du milieu de la culture et t'as une culture musicale et viens jouer tes disques. On s'en fout que ce soit pas calé, mais joue. Sympathy for the Devil, machin, on va tout kiffer. Voilà, il y avait un truc un peu rock, un peu.
Mais du coup, le dance floor répondait parce qu'en plus.
Ah, le dance floor, ouais, c'était.
On aurait pu avoir un dance floor en plus où il y avait personne parce que du coup, les gens comprennent pas le délire, tu vois.
Mais en fait, sur le dance floor, t'avais Mick Jagger, ou t'avais Björk, et en fait, au final, c'est des, en fait,
des gens qui fréquentaient le baron. Allez,
ah ouais, mais il y a eu beaucoup, franchement, toutes les stars sont passées.
Mais il n'y avait pas de bouteille, tu vois, c'est aussi un truc un peu démocratique. Voilà, c'était assez cool le concept du baron, parce que c'était pas un truc où, voilà, ils pouvaient aussi à l'entrée dire, bah, tu vois, c'est pas forcément pour les mannequins ou les footballeurs, ils pouvaient virer des gens un peu connus qui étaient pas dans le délire ou des gens en costume, tu vois, enfin voilà.
Donc, ouais, on a vu des gens.
Il y avait une sélection intéressante, en fait.
Il fallait réussir à rentrer, apparemment, c'était pas facile.
Ouais, c'était un quota de sélection c'était pas le même type de sélection que le VIP room, machin, je respecte totalement, mais c'était qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter autrement que par l'argent, comment tu vas créer, tu vas être acteur de cette soirée. Donc ça pouvait être des gens qui n'ont pas une thune ou des gens qui sont drôles. Enfin, il y avait un système aussi de sélection qui était très atypique, quoi. Et moi, j'avoue, quand j'ai vu tous ces gens passer des chaussées audacieuses, je me suis dit, mais moi, j'ai envie de professionnaliser ce que je suis en train de voir, qui est hallucinant. Moi, je veux, en fait, structurer ça, je veux le caler, je voudrais professionnaliser. Je crois que c'est ça qui m'a donné vachement envie d'aller plus loin. C'est de me dire, bah, ce que vous venez de faire, j'ai jamais vu ça. Est-ce que c'est aussi bien si moi, j'essaye de le caler bien? Et c'est peut-être comme ça que j'ai commencé.
Il y a un truc qui est vrai, c'est qu'Alex, il était extrêmement technique, tu vois. Comme on mixait de la matière très différente avec des PM, il a vraiment développé des techniques de DJ qui étaient assez atypique, c'est pas du mix de house progressif. Mmh. Et du coup, quand on a commencé à mixer, autant en studio, je suis arrivé, c'est ça, un préamp, c'est comme ça, les prises, les machins, j'ai déjà un certain savoir, mais lui, sur le DJing, il m'a bien appris à sculpter le truc, à choisir les boucles, les machins. Et donc, ça, c'était intéressant. Déjà, là-dessus, on a été très complémentaires. Et je pense qu'aussi, à la fin du Baron, ça faisait 8 ans qu'on faisait ou 10 ans qu'on faisait de la musique selector, on avait envie de mettre un gros kick et que ça parte un peu en club, parce que c'était pas de la musique club, et c'était un peu l'ADA, c'est que ça peut pas être club, faut pas que ça soit. Et du coup, on a pris des éléments, justement des samples, un peu une couleur musicale du Baron, qu'on a amené dans une musique plus taillée, plus produite, et on a pu aller in the club.
Complètement.
C'est pas mal toutes ces explications, parce que ça donne un peu une idée de d'où vient votre musique. Moi, je l'ai toujours observé. Alors, ça évolue avec le temps, évidemment. C'est pas un truc figé de dès vos débuts, vous avez votre patte et c'est tout le temps le même truc, etc. Ça se passe pas comme ça. Mais globalement, quand même, ce qui ressort, c'est que on est un mélange où il y a une vraie culture des musiques électroniques et du club dans vos sons. En même temps, il y a une approche hyper mainstream aussi. Je pensais pas vous faire offense de dire ça.
Pas du tout.
Hyper pop, très pop, très variété, etc. C'est des trucs que vous assumez complètement.
On aime faire plaisir aux gens. Pas de problème. Ça, et aussi un truc de 7 à 60. On aime que la musique plaise aux enfants, plaise aux parents. Enfin voilà. Donc il y a un truc quand même. On fait pas une musique triste ou pointue ou négative, enfin voilà, qui vient de la douleur. On fait une musique qui invite et qui doit faire plaisir aux gens. Donc
ouais, on est plus dans le twist, on est plus dans, c'est-à-dire qu'on aime faire une musique inconsciemment qui est accessible, parce que comme on a aussi un gros parcours de DJ, on a aussi un petit peu l'appréhension et quelques solutions du dance floor. On sait comment faire réagir des gens. On a fait quand même beaucoup de choses, même à part le Baron. Et inconsciemment, suite à cette décennie d'expertise, on a oublié les gens pour faire quelque chose de personnel. Sauf qu'inconsciemment, on fait quand même un peu de la musique au service des gens. On veut que ça marche. Sauf que c'est pas notre motivation première. Et le mainstream, en fait, je pense, il est peut-être pas dans la sélection de ce qu'on fait, mais par contre, il est dans notre nécessité inconsciente de faire danser les gens ou de faire plaisir aux gens. Le mainstream, c'est faire le plaisir le plus. La pop, la musique populaire, c'est on veut qu'il y ait le plus de gens qui écoutent notre musique, mais on taille pas la note musique pour faire des tubes, quoi.
Par le Baron, exactement, on essaie de se rendre compte qu'en fait, il y a tube et tube. Il y a vraiment de la musique qui vit super bien. Quand on écoute Ray Charles, ça fait danser. C'est juste de la super musique, c'est un tube, mais c'est aussi juste du super son et c'est génial. Et donc il y a pas de mal à faire un tube, faut juste en faire un bien qui vieillit bien, qui fera danser encore dans 30 ans, dans 40 ans, pas juste le truc d'aujourd'hui, quoi.
Et puis c'est facile à dire, on va faire un tube, mais ça n'existe pas.
C'est dur.
C'est les gens qui décident de si c'est un tube ou pas.
Alors justement, on parlait de canopée tout à l'heure. Est-ce que vous, au moment de la composition du truc, vous vous dites on tient quelque chose, ou pour vous c'était un morceau de plus qui était vous étiez content de le faire?
Bah moi j'avoue, j'ai un peu senti qu'il y avait quelque chose de différent.
Pour moi c'est quasiment un des seuls où genre vraiment je me suis dit là ok, là on fait un truc bien.
Et encore jusqu'à aujourd'hui.
Jusqu'à aujourd'hui, ouais. Et il y a plein d'autres morceaux où je suis moins sûr. Je suis souvent dans l'hésitation. Alex vous le dira peut-être, mais j'ai plus de trucs.
Je dirais pas.
Mais Canopée, j'étais là genre ok, là on a fait un truc bien, je le sentais et je me suis dit ok, c'est un bon morceau et ça reste le morceau qui stream le plus encore aujourd'hui, donc j'avais raison. J'avais raison de croire qu'il était bien.
Non mais c'est hallucinant de là de se rendre compte qu'on est double single de diamant sur Canopée en fait. C'est
ça correspond à combien de ventes ça, de double single de diamant?
Bah c'est single de diamant, je crois que c'est 75 millions de streams ou équivalent. Et en fait, on est single de diamant en France et single de diamant à l'export, c'est-à-dire à l'étranger. On comptabilise pas par. Oui, c'est un morceau qui continue, mais grâce aussi, je pense, au fait qu'on continue de faire de la musique. En fait, c'est un petit peu, c'est assez harmonieux. Certaines de nos sorties contribuent à l'essor des anciens morceaux qui ont été acceptés. Nana, c'est pareil, il est troisième, je pense. Ouais. C'est assez drôle. Et
mais effectivement, il a 120 millions de streams juste sur Spotify. Et y a pas,
ouais, donc.
On s'écoute un petit extrait rapide de Canopée quand même? Avec Canopée, il y a
un. Il y a quelqu'un qui chante.
Ça, c'est vrai.
Ouais, alors,
t'as des questions là-dessus?
Il y a quelqu'un, ouais. Mais il y a deux personnes.
Ah, il y a deux.
Ouais.
Ok.
Deux personnes. C'était. C'est marrant parce que ce morceau, il s'est encore fait vachement. C'est un morceau où on était C'est un morceau où on était en telle fusion tous les deux. On s'était un peu professionnalisé. Par exemple, là, c'est ça que j'écoutais. Il y a un balafon, sauf que maintenant, il est vachement structuré. On voit qu'on l'a transformé, on en fait des arpèges. Je vois qu'on s'est professionnalisé par rapport à Rivolta qu'on écoutait. Et c'est surtout aussi la rencontre de quelqu'un qui va changer un peu notre vie, qui s'appelle Victoria Lafaurie, qu'on connaissait depuis un certain temps. Et elle était amoureuse de quelqu'un. Et en fait, cette chanson Canopée, c'est à l'origine, c'était un peu une histoire d'amour entre deux arbres. Il y avait quelque chose. On voulait rendre hommage à la cime des arbres, à ce milieu de vie. Et en fait, Victoria, qui chantait avec nous, était amoureuse de cette personne qui s'appelle Armand, qui avait un groupe qui s'appelait Papousse, enfin qui a toujours un groupe ils sont brillants. Et puis, on cherchait des gens amoureux, en fait, naturellement. Et donc, c'est Armand et Victoria qui chantent.
D'accord.
Et donc, il a une voix assez mystérieuse, Armand, parce qu'il a une très belle voix. Et puis, il est capable aussi d'aller assez haut. Et c'est une voix qui se confondait. Il y a peu de gens, en fait, qui sont conscients que Armand chante dedans.
Ouais, ouais.
Mais il est tout aussi important que Victoria.
Il a une voix de tête un peu à la Alessi Brothers. Et Armand, en fait, ouais, on leur a proposé un peu d'essayer le morceau. En fait, c'était un morceau intéressant où Alex, il a un petit peu amené les chords, enfin les accords. Et puis moi, j'ai pris la guitare pour la première fois et je l'ai joué. comme mon père, voilà, il était guitariste, mais il a passé beaucoup de temps en Amérique du Sud. Et la bossa nova, c'est un truc qui jouait. Donc moi, j'avais un peu un groove bossa, que j'ai le seul groove que je sais jouer. Et voilà. Donc, mais ça, c'est un peu ça aussi qui a défini une des parties de notre voyage vers le Brésil, vers la bossa. C'est voilà. Donc c'est l'héritage un peu de petite dédicace à Frédéric. Et voilà, il y a eu pas mal d'allers-retours sur ce morceau. Je me souviens, Alex avait chanté une harmonie sur le refrain où c'était dans mon château. Enfin, je sais pas, c'était pas les mêmes lyrics.
Et j'avais fait un petit yaourt et d'un coup, Paul, il m'a dit, non, mais fais-moi confiance, là, j'ai écrit un texte.
Mais t'as amené le mot canopée, par contre. C'est toi qui étais,
voilà, donc
il y a
vraiment,
il y a eu beaucoup,
ce challenge,
en fait, c'est, je pense aussi, le morceau est bien parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'allers-retours, on a beaucoup collaboré. Ouais. Et parfois, les morceaux, c'est plus sain qui apporte et qui fige un peu des choses. Ils sont moins bien, juste. Enfin, voilà, ouais, c'est vrai. Vraiment plus on arrive à faire des allers-retours, à s'imbriquer l'un dans l'autre, plus ça monte en gamme.
C'est vrai que c'est le morceau le plus collaboratif dans le mouvement. C'est-à-dire qu'on amène quand même souvent un peu moitié-moitié, et quand c'est 80 et 20, bah, ça sera 80-20 sur un autre. Mais là, c'est les allers-retours qu'on a fait, qui étaient tellement vertueux. On se surprenait chacun. C'était une petite battle de la théorie de la meilleure idée. Il arrivait, où je disais, non, mais attends, mon texte est bien.
Tu fais kiffer? Non, ouais. C'est toi, alors, putain.
Non, mais là, c'est vrai qu'il m'a dit, fais-moi confiance, Alex, j'ai un truc, j'étais pas si sûr. Et en fait, mais quand je repense au texte qu'il a écrit, tu vois, c'est
vrai que je remercie Victor et Armand, justement, sur le texte. Je me souviens, Alex, qui disait, mais mélopé, c'est trop vieux français, machin. Ouais, et en fait, vrai, Armand et Victor, ils ont dit, non, le texte, il est génial, vas-y, fonce. C'est moi, j'étais un peu sous un speed Gainsbourg qui faisait Sous le soleil exactement, qui dit qui place sous les tropiques, donc j'ai placé un peu les méridiens. Enfin, j'avais un peu pris cet inspi pour placer l'histoire.
Mais l'OP, c'est le mot préféré de ma mère dans ce morceau.
Voilà.
Donc là, je peux dire. Donc j'ai dit que c'était moi. Je rigole.
Mais bref, en tout cas, ce morceau, ouais, voilà, ça se fait par plein de petites chances. Il faut avoir beaucoup d'être entouré de Victoria, Armand. Voilà, tout ça, il y a plein de choses qui arrivent au bon moment, au bon endroit. Et là, on savait qu'on avait fait un bon morceau.
Et la conviction aussi.
De poser un texte, c'était dès le départ, c'était pas juste de la musique instrumentale, vous le disiez.
Il y avait déjà Plage Isolée qui était sorti avant ça, ou Alex
Cœur d'Artichaut.
Et Cœur d'Artichaut, donc on n'en était pas à notre première chanson pop un peu.
Mais oui, si ta question c'était, on prédestinait déjà ce morceau à ce qu'il soit chanté.
Quand il y avait
chanté,
déjà la boucle de guitare, machin, etc. C'était...
Ouais, on voulait que ce soit une chanson.
Okay.
Enfin, je me souviens plus, mais il apparaissait logique que ce morceau.
Ouais, c'est des cordes, c'est des chansons à quatre accords. Enfin voilà, si tu fais pas de la musique électronique, faut que ce soit un peu plus linéaire, sinon c'est ouais, ça chantait. Enfin.
D'ailleurs, c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'on s'est jamais dit on va faire ça comme ça, machin. Mais je pense que ça s'est c'était évident en tout cas qu'il manquait. Il manquait une voix dessus, ouais. Même si au milieu on se fait un petit pont un peu électro, machin. Mais... Et d'ailleurs, heureusement, parce que autant dans les paroles que la voix.
Non, mais Alex aussi sur le pont, par exemple, il a vraiment insisté. Il faut un moment moderne, et donc on a vraiment la prod, on l'a faite ensemble, on a défini pas mal de nos tricks de prod à ce moment-là. Ouais. Mais Alex disait, attention, faut pas qu'on s'enferme trop dans un truc trop chanson.
Ouais, donc il y avait quand même cette réflexion-là, quoi.
Il y avait de la conviction.
Et que notamment Alex, il était garant de rendre les morceaux efficaces et palpables pour le public, et que je lui faisais vachement confiance là-dessus. Voilà, viens, on simplifie ici, viens, voilà. Moi, parfois, je complexifie un peu, et Alex était plus, viens, on fait des kits, voilà. Et il a su amener cette idée de faire ce drop électro au milieu. Il a dit, c'est vachement important, et c'est vrai que ça.
Il y a un truc dont on n'a pas parlé encore, Alex. Parce que derrière, il y a cet album Caravelle 2017, sur lequel il y a Canopée. Enfin, Canopée était sorti avant, hein, mais il apparaît sur cet album-là. Mm-hmm. Et le nom est bien Caravelle, parce qu'il y a cette idée de voyage, machin, etc. Et qui en fait, est une évidence.
Caravelle, mot trouvé par Polo, je dois le dire.
Il est bon avec les mots.
Il est très fort avec les mots. Il est très fort.
Et on n'a pas encore dit que dans votre musique, il y a quand même dans votre patte, on parlait d'identité sonore, etc. Il y a un truc... évident, c'est que la musique qui vient d'ailleurs, je sais pas quel est le bon terme, vous allez nous dire, peut-être que vous avez réfléchi à ça, mais elle a une place essentielle, alors par touche.
La musique qui vient d'ailleurs, c'est-à-dire la world music, si vous voulez.
Ouais, mais j'aime pas musique du monde, c'est toujours un peu embêtant,
c'est pas
comme
hein,
terme,
hein,
c'est englober tout ce qui n'est pas nous, c'est tout le reste, donc c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, la musique qui vient d'ailleurs.
La musique export, je t'avais parlé des certifications, tu peux. Bon, aucun problème avec la musique du monde, en tout cas, nous.
C'est
musique ethnique.
Ça vient de votre histoire. Alors Paul, toi t'as insisté plusieurs fois sur le fait que t'as vécu ailleurs, que ton père par exemple s'intéressait à l'Amérique latine, t'as les origines américaines, t'as été quelques mois, tu disais au Maroc, etc. C'est dans vos vies, il y avait aussi ce truc du voyage et naturellement c'est venu, ou vous êtes dit tiens c'est quand même un truc aussi qui manque, ou d'un point de vue sonore ça peut être intéressant, on le fout.
Bah en fait, moi mon père est né en Kirghizie, par exemple. D'ailleurs il y a un morceau qui s'appelle Kirghiz sur Caravelle. Je pense que tous les deux on est le fruit du voyage, du monde, de la collaboration. J'ai rencontré vraiment Paul pour la première fois au Mexique. J'ai été mais complètement séduit. Je suis tombé amoureux de Paul sur cette EP qu'il a fait au Maroc. Lui, il est franco-américain. Moi, mon père, voilà, est né à 15 000, 10 000 kilomètres d'ici. L'idée d'appartenir à, d'être français, c'est un tel honneur et on est bercé, mais par contre on est le fruit de nos voyages, on est le fruit de nos rencontres avec les gens, nos collaborations. Donc musique du monde, nous on est des citoyens du monde avant tout, même si on a un passeport.
Ouais, bien sûr. Ouais. Non mais on est bon. La France aussi, c'est un pays universaliste dans ce, et aussi qui a déjà beaucoup. Il y a beaucoup de collaborations avec la musique brésilienne dans les années 60. La pop française s'est beaucoup intéressée déjà à la musique du monde. On parlait de Gainsbourg aussi. Ouais, il a fait un disque en Afrique, il a fait un disque en Jamaïque. Tout ça, c'est des gens qui explorent un peu le monde à travers leur musique, et ça nous inspire.
On va parler de Bernard Lavilliers, par exemple. Bernard. Un voyage en album.
Et voilà, et Alex aussi, à ce moment-là, il crée Radio, mine de rien. Il faisait partie des créateurs de Radio, qui est quand même une map monde, il classifie les époques. Donc, il s'intéressait aussi vachement à toute la musique. Il était pointu sur plein de pays.
Et nous dire rapidement ce que c'est Radio, et inviter les gens à aller voir, effectivement, Radio avec 4 O, si je dis pas de bêtises, 4
5.
5, pardon. 5O.com, hyper bien.
Ouais, c'est génial. Non, mais je t'en prie. Non, ce qui est très drôle, c'est que, à un moment donné, mon petit monde d'illusion, je parle en ce qui me concerne, parce que Polo, je sais pas, c'est pareil, mais il y a eu une heure où ces années fastes du Baron, moi qui étais j'étais à l'école, quoi, j'étais en CM2 de la nuit, moi, à ce moment-là. Ce monde a tendance un petit peu à s'écarter, chacun commence à faire ses trucs, et puis je me retrouve en fait à me dire, mais je n'ai plus de parents de la nuit. Il va falloir que je commence à faire quelque chose. Il y avait aussi une nécessité pour moi de faire des choses. Et dans la même année, déjà, je crée Polo et Pan avec Polo, ou Polo and Pan, je sais pas. Polo et Pan. Et Radio, dans la même année, avec mes amis fous, qu'on connaissait aussi du Baron.
En quoi ça consiste, Radio, juste
pour... Trop bien, c'est trop trop bien. Ça.
Radio, en gros, c'est une carte du monde. Qui consiste à classer de façon subjective les meilleurs morceaux de chaque pays et de chaque décennie de pays. C'est-à-dire que tu vas aller sur ce site, tu vas cliquer sur le pays de ton choix. Il y a une map monde, c'est très simple et c'est très intuitif. Tu cliques sur Égypte et puis après tu choisis ta décennie et tu auras une sélection faite à la main, morceau par morceau, de la décennie du pays que tu auras choisi. Donc au début, il a fallu créer ce qu'on a appelé une banque de données crédible, c'est-à-dire que donner envie aux gens d'y aller. Et ensuite, on a ouvert au monde, les gens étaient capables de participer, d'uploader des sons. Et on s'est très vite rendu compte, déjà que les gens avaient énormément de goût tout autour de la planète, qu'on pouvait trouver, comme je parle de subjectivité, parce que c'est beau pour moi, peut-être pas pour quelqu'un d'autre, mais on peut trouver de la cumbia en Suède. Nous, notre but, c'était de trouver le France Gall en Thaïlande. Voilà, au départ, c'était subjectif, et après, c'est devenu, grâce à la force des gens et de la contribution des gens, sachant que nous, quand même, chaque jour, on recevait des morceaux, on disait oui, non, on classait, puis on mettait tout dans des Excel, c'était n'importe quoi. Allez-y, faites-y un tour, parce que c'est gratuit, vous avez une version sans abonnement, radio avec 5o.com. Et vous allez
Pour les gens qui veulent sampler, moi je me suis retrouvé à écouter de la musique indonésienne improbable et j'étais en mode putain mais ça défonce quoi.
Il y a plein de petites fonctions sympas, par exemple tu peux te faire un voyage, c'est-à-dire que je veux passer de tel pays, puis après ça fait une sélection comme ça, une playlist
Oui, et puis si tu décides de payer pas grand-chose pour être premium, en fait t'as des îles, c'est-à-dire qu'on a fait des thématiques, il y a tout un tas de trucs, il y a plein de petites surprises. C'est fascinant. Et moi-même, moi qui étais à l'origine de ce truc avec, avec des potes, je suis complètement dépassé par ce projet. Où je suis d'ailleurs plus trop. Enfin voilà, je suis maintenant Paul.
Mais il a dû faire un choix aussi au début, ouais, à un moment où les deux projets montaient en, en puissance, et t'as fait le choix plutôt de finalement d'aller vers.
Et ouais. Plan plan.
Wise choice.
Well done. Best choice ever. Yeah. Mais je rigole, mais ouais. les trois personnes majeures avec qui j'ai co-créé ça. Il y en a un, c'est aussi notre producteur.
Ouais, très belle.
Et les deux autres, les deux créateurs iconiques de radio, sont ceux qui font tout l'artwork et toute la scénographie. Ils font toute la direction graphique de Polo et Pan depuis le début. Neuilly First et Benjamin Moreau. Ouais.
C'est la même team, quoi, globalement.
Ouais, donc en fait, famille. C'est la même équipe.
Ouais. Ouais, c'est ça. On bosse vraiment en famille depuis un certain temps et on a de la chance d'être entouré de plein de potes qui ont beaucoup de talent et avec qui on arrive, on continue à faire tout ça ensemble. C'est génial, quoi.
Alors, j'ai une question par rapport à tout ça, parce que à travers radio aussi, on voit qu'il y a cette ouverture aux musiques du monde. Disons ce terme pour le moment. qu'on retrouvera. Alors d'ailleurs, on spoil un peu, mais je trouve que ce côté-là est un tout petit peu moins présent dans le dernier album. Ouais. J'imagine que c'est une volonté, parce que on va être clair. Est-ce qu'il peut y avoir un peu le côté à un moment où on enchaîne les morceaux, puis bon alors là je vais mettre une flûte qui vient de tel endroit, puis là je mets le truc, tu vois, et ça devient gimmick.
Je peux pas te laisser dire ça, ok.
Et bon, flemme un peu, tu vois.
Ouais.
Ça devient le truc facile au bout d'un moment. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben en fait, c'est marrant parce que tu as préparé méticuleusement ce terrain de êtes-vous à un moment donné prisonnier justement de cette patte ? Mais c'est totalement légitime cette question. C'est à un moment donné, est-ce que t'es toujours dans une recette qui marche et t'as pas envie de la faire évoluer ? C'est un truc, surtout sur le deuxième album, je me souviens, on s'est dit... On a cette patte. Les gens, est-ce qu'ils attendent cette patte? Est-ce qu'ils veulent être surpris? Ah, ce que ce temps, ça a été un vrai vertige le second album. Et pour moi, c'était une transition. Mais dans ce troisième album, j'avoue, résolument, on a décidé de radicalement, en tout cas, de faire table rase du passé, de ne jamais utiliser des astuces pour en prendre. Par contre, quand ça c'était naturel, on va pouvoir parler de l'intuition. On a plein de choses à dire sur cet album.
Ouais. Je dirais même, on l'a pas décidé parce que le troisième album, on a un peu changé le procédé de travail et c'est ça qui a changé le son, qui a fait qu'on est allé vers autre chose, mais sans se le dire avant. Sur le premier album, on a fait un storyboard, on va au Brésil, on fait une cumbia, on fait des choses qu'on aimait bien. C'est ce qu'on avait envie de faire à l'époque et c'est vrai que de refaire ça, si on revient maintenant, on va aller au Mali. Enfin voilà, ça aurait peut-être été un peu redondant et puis à un moment ça. Donc là, on a fait la musique différemment. On n'a pas dit des storyboards de ce qu'on allait faire. On a plus installé un studio avec beaucoup d'instruments et à la place d'être à la souris, on avait beaucoup moins d'instruments forcément sur notre premier album. On a installé vraiment un studio vachement ambitieux avec plein d'effets, plein de trucs, et on a fait avec les mains. Et donc, on a fait plus de la disco qui nous a ramené aussi un petit peu au Baron et à beaucoup de musique qu'on jouait avant. On a fait pas mal de collaborations aussi, où forcément, en collaborant avec des artistes, ça nous a amené sur un autre son, dans d'autres directions. Et autant sur le premier album, on avait collaboré avec Patrick Bébé, par exemple, voilà, qui est camerounais, qui joue les flûtes sur Baccarat ou des choses comme ça.
La Sanza,
etc. Là, on a tous, pas par un choix forcément volontaire, on a des collaborations qui étaient peut-être plus western, enfin eurocentrées, tu vois, genre voilà, on a collaboré avec des artistes américains, des artistes anglais. Et
sur le nouvel album, tu veux dire, hein,
sur le nouvel album.
Et d'ailleurs, 22h22, qu'est-ce qu'il faut le
22h22,
très bien.
Ouais.
Oui, parce qu'il y a des collabs avec Metronomie, avec Bastido,
exactement,
tu vois, des gens comme ça. Ouais.
J'avoue qu'il ne faut pas oublier que le deuxième album...
Cyclorama, donc, qui sort en 2021.
Cyclorama, il y avait, en fait, on a toujours eu, non seulement envie, mais besoin de collaborer. On a commencé par on a eu besoin de collaborer ensemble. Donc, l'idée de la collaboration, elle est essentielle, elle est naturelle. Il y a eu quelque chose d'assez frustrant dans le deuxième album. C'est que, il y a eu, cet épisode où on ne pouvait pas collaborer. Il y a eu, cette pause de vie qu'on a appelé le Covid. Ouais. Et en fait, on a fait, par exemple, Tunnel avec Channel 13 sans le rencontrer. Il y a eu pas mal de choses où on voulait être beaucoup plus dans l'humain et le concret qu'on n'a pas réussi à faire. Et là, en fait, je pense que l'idée de l'intuition et l'idée du point de vue qui est dans 22h22, qui laisse plus la place à l'inconscient et à l'intuition et à la coïncidence, au kairos dont on avait évoqué, et ben ça nous a permis de laisser la place à plein de collaborations, mais peu importe d'où elles venaient, c'est juste le fruit de choses. C'est quand même du random, ces collaborations. Peut-être qu'elles sont moins... je sais plus ce que tu utilisais comme mot. Elles sont peut-être moins issues de tous les continents.
Ouais.
Mais en fait, elles sont juste intuitives. Elles se sont juste faites.
Ce que je disais, c'est que...
Il y a moins d'intellectualisation du parcours sur cet album.
C'est que cette touche qu'on pourrait qualifier parfois d'exotisme, on la retrouve beaucoup moins dans le troisième album, ça clairement.
Ouais, carrément.
Et j'en veux pour preuve cette idée d'exotisme, etc. avec Cyclorama, puisqu'on l'évoque. Puis on pourra passer peut-être vraiment au dernier album, au morceau qui a été vraiment un des gros tubes, en tout cas de l'album, qui est Annie Cooney. On peut s'écouter ça et après en discuter justement parce qu'il y a cette question aussi du rapport à la culture de l'autre et ce qu'on en
bien
fait.
Bien sûr,
etc.
Bien sûr.
Ouais,
allez, on s'écoute ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter juste la source, chant, en plus qui a déjà été utilisé dans de la variété française, si je dis pas de bêtises.
C'est une chanson où les enfants ils chantent ça à l'école. Ouais, ma fille elle le chantait, c'est un truc indien.
Amérindien.
Mais indien natif.
Ouais.
Ça a été le fruit de beaucoup de recherches pour ça, parce qu'en fait, on sait toujours pas vraiment de quelle communauté est issu ce morceau. C'est vrai qu'à l'origine, c'est un morceau que je chantais quand j'étais petit. C'est un morceau que j'ai chanté à mon fils. Après, je me suis rendu compte que, en fait, c'était pas qu'une comptine. Ça avait été pris par Madeleine Chartrand, une Québécoise. Et en fait, Nana Mouskouri l'avait fait. Et puis, en fait, on est allé de plus en plus loin dans l'analogie. Puis on s'est dit, oula, en fait, c'est un chant qui a plus de 1400 ans. Donc, on a essayé d'aller voir d'où il venait. Et on s'est dit oula, mais en fait chacun comme ce sont des paroles qui sont dictées et qui sont transmises oralement, il est assez difficile de tracer. C'était d'ailleurs un moment particulier puisque c'était en plein Covid l'écriture de ce morceau, et c'était une de nos frustrations de collaboration par exemple. C'était de pas pouvoir collaborer directement autant avec Channel 13 que avec donc évidemment c'est rapproché de plein d'associations amérindiennes où on donnait nos bénéfices, mais on a eu une grosse frustration parce qu'on cherchait absolument d'où venait. Et on a trouvé quelque chose avec Paul, le fruit de nos discussions. C'est-à-dire que si tu fais Wikipédia en deux secondes, tu vas tomber sur ce que nous on a trouvé au début. Mais en fait, le chef d'une tribu Anishinaabe, qui est donc au Canada, expliquait que ça a été le dernier vestige, et d'ailleurs j'invite un peu les gens à peut-être nous aider pour aller plus loin. Il expliquait que en fonction de comment tu chantes ce poème, c'est-à-dire que si tu le chantes rapidement et de façon
enjouée,
en fait les paroles se modifient et sont en fait c'est quelque chose qui célèbre la vie, donc c'était pour des mariages et des anniversaires, et quand tu le chantes de façon lamentatrice, lente, en fait le discours change. Et donc on a trouvé ça assez On a trouvé ça assez bouleversant, en fait. J'avais retrouvé ça, d'ailleurs, chez Chico Buarque, Construção, qui est un morceau, un de mes morceaux préférés, où, en fait, en fonction de comment tu le chantes, alors que c'est du brésilien, les propos se déforment. Et donc, bah, nous, évidemment, on a quand même essayé de le rendre... on n'a pas eu envie de se... on fait de la musique qui était assez positive, donc on l'a rendu enjoué. Mais on a été fasciné par la puissance de comment tu peux dire les choses et comment elles peuvent se modifier en fonction de comment tu les dis. C'est d'ailleurs un peu la prolongation sur cet album Paris Dolly, tu vois. On en parlera après.
Qui est sur le nouvel album.
Ouais.
Non, mais sur cette chanson, voilà, il y a un petit débat culturel de fond dans notre culture sur l'appropriation culturelle. Je pense que c'est ça que vous vouliez un peu dire, oui. Et que aujourd'hui, pour moi, en fait, bon, la musique, c'est quand même le partage, la transmission. Que nous, ça part d'une démarche. On a pris ça en tant qu'enfant. On fait un disque qui est sur les étapes de vie. Que c'est un morceau que le fils d'Alex chantait et. Voilà, on a une discussion avec notre label là-dessus, donc on a aussi décidé de reverser une partie des bénéfices à une association pour les enfants amérindiens. Mais dans l'absolu, je pense que si un natif américain reprend une chanson de folk, c'est super, et que nous on prenne un truc. Voilà, c'est aussi ça. La musique, ça doit être le partage, et aujourd'hui la culture se tend un peu autour de ça, et je pense que c'est bien d'inviter aussi à se détendre et se dire, bah c'est bien qu'on se célèbre les uns les autres, que on apprécie, et surtout du moment qu'il y a une démarche consciente et respectueuse.
En fait, c'est ça qu'il faut.
C'est ça qui est important. Voilà, on a pris
conscience.
Ouais, non, mais juste on prend conscience, on entend le débat, on s'est rapproché des gens. Pendant le Covid, malheureusement, on n'a pas pu en plus faire les collaborations qu'on souhaitait.
Je dirais que c'est la plus grande frustration, c'était quand même ça. Ouais.
Mais on s'est dit, c'est pas pour autant que voilà, cette chanson qui marche bien, on a eu un coup de cœur, on s'est dit, ah, c'est génial. Faisons-le, et c'est vrai que on vit dans des années où je pense que voilà, la culture tourne de temps en temps. C'est particulièrement un point contentieux un peu en ce moment qu'on entend, et peut-être dans le troisième disque le choix d'être un petit peu moins exotique, de se dire ok, et pour le meilleur ou pour le pire, on pourrait se dire ah bah c'est peut-être un peu dommage, c'était génial qu'ils explorent des continents, limitez,
mais c'était une manière surtout de mettre en valeur aussi cette communauté qui a aussi besoin peut-être d'aide. Le problème c'est aussi l'idée de...
Ouais. Je t'interromps juste là-dessus, parce que vous avez dit un truc intéressant, moi j'étais pas au courant de ça, par exemple, qu'il y a aussi une dimension financière, c'est-à-dire de dire on va aider une association, parce que derrière la question autour de l'appropriation culturelle...
Tu vas sur notre YouTube, c'est écrit juste en dessous, on n'a jamais communiqué dessus, après que ce soit la peut-être 15e ou 20e fois qu'on nous pose la question, ce qui est légitime, parce que je trouve que c'est un débat qui est vachement intéressant.
Ce qui est intéressant, c'est que nous, on n'avait même pas posé la question, là.
En fait. Ouais, mais
sur le financier précisément, non, effectivement. Mais par contre, sur le côté du rapport à la culture, si quand même.
L'appropriation culturelle, en fait, c'est si t'invisibilises
les démarches.
On parlait d'exotisme et le fait de voyager. Voilà, aujourd'hui, on est deux mâles blancs et on est dans un moment culturel où on peut se dire, ok, les gars, vous faites une musique africaine, une fusion. Voilà, il y a une question là-dessus qui est dans la culture et qui est bien ou pas bien. D'ailleurs, on peut discuter de ça. Je pense qu'elle a vraiment des aspects positifs, mais parfois des aspects un peu toxiques où ça empêche les gens se censurent eux-mêmes. On peut pas faire un truc parce que on va se faire défoncer. Donc, on a pris ce choix avec le label de le faire, de quand même faire d'essayer de faire les choses bien.
Et puis sans vraiment communiquer. D'ailleurs,
notre démarche est honnête. On aime faire de la musique. On donne du plaisir aux gens et on célèbre une culture. Et ensuite...
On reverse les bénéfices. Et après, il y a aussi l'idée de... Ok, mais en fait, vous utilisez votre image, vous utilisez le fait que vous reversiez. En fait, on n'a juste pas communiqué. Et il y a eu quelque chose d'assez vertueux, c'est qu'on n'a jamais communiqué là-dessus. Et c'est pourtant Nika.us, cette association qu'on aide comme on peut. C'est écrit juste en dessous. Et en fait, c'était assez drôle de regarder les commentaires YouTube, parce que nous, on était plutôt dans le questionnement. C'est aussi ça qui est intéressant dans notre projet. C'est que premièrement, on n'a pas les épaules pour répondre à toutes les questions. Par contre, on est assez fiers de pouvoir questionner les gens. Et dans les commentaires sous Annie Cooney, il y a vraiment des choses fascinantes, parce que il y a beaucoup de gens qui sont allés un petit peu plus loin et qui sont allés sur Wikipédia et qui se sont dit « Ah ouais, mais en fait... » Et il y a des gens qui se sont dit « Ouais, mais ça appartient à la communauté. » Et puis, il y a des gens qui ont répondu. Nous, on n'a pas répondu. Il y a notre communauté qui a débattu d'elle-même. Ouais. Nous, on n'est jamais intervenu dans ce débat. Et si tu regardes les commentaires, mais il y a des choses vraiment hyper intéressantes. Autant dans les gens qui sont allés très loin pour retracer, ce qui était vachement instructif. Il y a aussi les gens qui ne sont pas allés chercher assez loin, qui ont jugé trop vite et qui se sont fait modérer. par Dotis. Bah, en fait, tu regardes la deuxième ligne. L'argent de ce morceau, bah, tu vois bien que pour la plupart, elle va là. Et en fait, on a bien vu que le questionnement, il marchait et que le débat, on n'avait pas besoin non plus de s'imbriquer pour le fossé.
Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'était quand même pour vous, dès la conception, vous saviez que ça pouvait être un sujet.
On s'est posé la question parce qu'on se posait, on se rend compte de la culture, on est dans un moment de MeToo, de machin. Enfin voilà, on sait dans quel monde on vit et on sait que sur le premier disque, au même moment où on faisait Caravelle, on n'était pas dans le même monde qu'au moment du Covid où particulièrement on était dans un moment de psychose totale des gens. Et tu restes un an enfermé chez toi. Tu vois, les gens, ça montait en pression et t'es plus sur les réseaux. Donc, on a fait le morceau, on a adoré. C'est le label qui a dit, les gars, et ils m'ont presque attiré. Moi, j'étais un peu là innocemment en disant, le morceau est cool, c'est gentil, tu vois, c'est gentil. Et ils ont,
Le label qui a dit,
ce qui est intéressant.
Il y a une réflexion là-dessus. Voilà, juste pour dire, on est conscient que on n'est pas juste des gars qui arrivent en faisant le truc. Voilà.
C'est l'album, ce en fait, excuse-moi de te couper. L'album Cyclorama, en fait, il correspond, je sais pas si tu te souviens, il correspond à des chapitres et à des étapes de la vie. Et effectivement, il y a la naissance, il s'appelle comme mon fils, et puis Annie Kouni, c'est un moment de l'enfance. Et l'enfant, le moment de l'enfance, il y a quelque chose de très particulier. Mon fils qui va avoir 7 ans là, et l'âge de raison, il y a toute cette ambiguïté entre la naïveté et l'innocence que tu te dois de préserver au maximum chez un enfant, et l'idée de la conscience, qui est quelque chose qui est aussi essentiel. Et en fait, bah, l'air de rien, ça pose quelque chose qui dépasse, moi je trouve, ce problème-là. C'est jusqu'à quand en fait on doit faire les choses par naïveté, et jusqu'à quand on doit en fait conscientiser les choses. Nous, on a fait ce morceau en totale conscience, ça évidemment. Par contre, il fallait aussi laisser aux gens truc.
Tu sais, là j'ai pris l'exemple d'Annie Kouni parce que c'est l'un des plus parlants, mais en fait c'est un débat plus général à mon sens dans le rapport qu'on a aux autres musiques. Et ce que je trouve hyper intéressant, Paul, et c'est ce vers quoi je voulais vous amener, c'est comment rester en adéquation avec sa société. C'est-à-dire que quand on commence un groupe autour de 2012, puis quand on sort un album en 2025, c'est pas exactement le même monde. Et en tant qu'artiste,
c'est pas le même monde du tout.
Prêter attention aussi à ce qui se passe dans ta société et dans le monde, je crois que c'est aussi un des éléments de ton job. Enfin, ou alors ça peut être dangereux d'être complètement déconnecté.
En tout cas, on est dans un monde où il faut être conscient, mais il faut faire attention. Je pense un des plus grand danger de notre société, c'est de trop s'auto-censurer en ce moment. C'est d'avoir trop peur de tout le temps et de se faire prendre dans des trucs. Et donc, il faut que les gens soient courageux et qu'on n'a pas forcément fait un truc ultra courageux, mais on s'est dit, on va quand même, c'est une petite prise de risque et parce qu'on l'aime, parce que c'est cool, parce que on est vraiment dans une célébration de cette culture. Voilà, c'est une transmission, la musique, c'est ça, c'est un partage. Et c'est ça que les êtres humains doivent célébrer ensemble et pas avoir peur de l'appropriation culturelle. Enfin, pour moi, il faut qu'on partage, il faut qu'on prenne tous les cultures des uns des autres avec respect, avec conscience, en se comprenant. Mais c'est ça aussi, et qui enrichit la musique.
En fait, il faut garder en tête l'origine du truc et pas tenter de le réapproprier ou de le masquer. Si tu le célèbres, en vrai,
je pense que personne, hormis, il y a toujours des relous, mais globalement, c'est quand c'est fait dans le respect.
Non, mais c'est parce que c'est vrai
Eminem, tout le monde est d'accord que c'est un grand rappeur. Il est blanc, voilà. Après, c'est une musique noire. Est-ce qu'il faut le cancel? Non, c'est quand même un super rappeur. Donc voilà, je pense qu'il y a tellement d'exemples qui montrent que c'est bien quand ça partage, quand ça mélange.
C'est toujours l'humanité, pareil. Il faut faire les choses avec intelligence. Et en fait, il y a eu beaucoup aussi de gens qui ont parlé tout simplement de l'argent. C'est-à-dire, le truc concret, c'est est-ce que vous faites de l'argent sur une communauté amérindienne? Et ça, c'est un vrai problème.
Et il n'y a pas d'ayant droit sur un morceau comme Annie Kouni, ça a été écrit même avant que...
Donc,
on se rapproche d'une association, et quand on fait un sample brésilien, là, c'est les ayants droit qui prennent.
C'est plus facile de se rapprocher d'un sample.
Ouais.
Nous, on a toujours clearé Rivolta, on a parfois galéré pour retrouver les ayants droit, mais c'est normal. Mais par contre, c'est ultra c'est-à-dire que c'est ultra quadrillé d'un point de vue légal, les samples. Là, on est allé jusqu'à un jusqu'au boutisme d'aller chercher d'où venait pour se rendre compte qu'il n'y a pas encore la réponse. Mais par contre, la solution, c'était d'aller de l'avant et
soutenir une cause positive aujourd'hui. Voilà,
et te trouver, on a galéré pour trouver aussi la meilleure association sur laquelle qui était peut-être celle qui était le plus à même à ce qu'on se trompe pas de moyens de rétribution. Parce qu'en fait, une communauté amérindienne, il y en a plein. Peut-être qu'il y en a une qui déteste l'autre. Nous, on a cherché la chose la plus globale qui avait le plus de sens aussi. Parce qu'effectivement, à ce niveau-là, purement financièrement, par contre, ça pourrait être vraiment ultra déplacé de ma part vrai, et ultra dégueulasse.
On a même pas
si ça avait pas de sens.
In fine, en vrai, on a même pas vraiment eu de bad buzz. Il y a eu 2-3 personnes forcément qui ont fait 2-3 connes, mais voilà, le morceau a bien tourné, les gens sont contents, ils viennent au show, ils, voilà. Donc ça, on a, voilà, c'est en plus, c'est ça qui est cool, c'est que les gens ont apprécié finalement le morceau. Ouais. Et je pense que ça, c'est important de se rendre compte.
Il y a pas eu de bad buzz aussi parce que les gens se sont un petit peu, comme je disais, au détour de YouTube. Tu regardes, il y a aussi eu un débat sans qu'on ait eu besoin.
Une discussion.
Ouais, ouais, spontanément, les gens qui disaient attends, machin. Ouais.
Ouais, c'était vraiment. Instructif.
Et c'est vraiment, alors, c'est vrai que ce cas spécifique est particulièrement intéressant parce que cette espèce, effectivement, de texte, on ne comprend pas tout à fait d'où il vient, etc. Tu parlais de cette quête un peu, c'est hyper intéressant. Et moi, c'est vrai que je voulais un peu étendre le truc, et ce qu'on a fait d'ailleurs, hein, à cette approche justement autour de l'exotisme, entre guillemets.
Bien sûr.
Et
la une fétichisation de l'exotisme.
Ouais, il peut y avoir un peu ce truc-là. Alors, à la fois d'un point de vue social, politique, presque, entre guillemets, mais aussi d'un point de vue purement artistique, en disant que justement, ça peut devenir le gimmick, le truc redondant, etc. On en a déjà un peu parlé, mais ça peut nous amener à ce troisième album, justement, où ce que j'aime bien avec ce troisième album, c'est que à la fois on retrouve votre idée de voyage, mais dans le sens de proposer en fait musicalement des choses différentes au sein d'un même album. Ça a toujours été votre truc.
Ouais.
C'est qu'il y a un truc un peu énervé à un moment, il y a un truc beaucoup plus doux, il y a même des ballades quasi folk un peu ouais, dans l'album, il y a beaucoup plus de guitare qu'auparavant, en tout cas comme elles sont mixées beaucoup plus en avant. Il y a vraiment ce truc qui ressort. Par contre, il y a un morceau comme The Mirror, qui est un des singles d'ailleurs, qui lui est hyper musique électronique. J'ai l'impression que c'est l'une des premières fois où vous assumez autant la musique électronique comme ça, un peu plus rentre dedans. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. C'est peut-être pas la première, mais en tout cas, c'est vraiment un parti pris, j'ai l'impression.
C'est un mix différent, en tout cas. Plus UK, qui tape un peu plus, voilà, disco.
Ouais, je le trouve plus disco, moi.
C'est vrai qu'il est aussi disco, mais en tout cas, il est plus rentre dedans, quoi.
Dans le mix, en tout cas, il est plus rentre dedans. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord.
On peut s'écouter d'ailleurs des extraits un peu de tout ça, de ce troisième album.
Un plaisir.
Soit des morceaux qu'on vient de citer, soit vous, peut-être qu'il y a des morceaux qui vous tiennent particulièrement à cœur, ou vous avez envie d'écouter tout simplement maintenant.
Franchement, fais appel à ton intuition.
Ouais. Vas-y, maintenant on peut écouter The Mirror, on peut écouter le morceau. Ouais.
On peut en écouter un deuxième après, ça.
Allez, avec plaisir.
The Mirror.
C'est quand même très disco.
C'est hyper disco, mais tu sais, c'est la disco post-Moroder, quoi. Tu vois, donc c'est quand même ultra électronifié, entre guillemets. Mais il y a quand même ce côté-là, quoi.
Carrément, ouais, carrément. Bah, de toute façon, cette, la ref, elle est clairement là. Et puis, là, comme on disait sur le procédé, en fait, on travaille plus avec des machines. Donc, c'est ça qui est marrant, c'est qu'on avait vraiment le Jupiter 4 avec un delay années 70. Et on faisait ça un petit peu plus de manière intuitive et sans se dire ce qu'on allait faire. Voilà, ah tiens, tout d'un coup, il y a une basse Moroder qui sort un peu. Viens, on part dans cette direction-là.
C'est vrai qu'en fait le fait d'avoir recréé au sein du studio un terrain de jeu hyper intuitif et hyper connecté, on a travaillé avec Nicolas Miossec qui est la personne qui nous aide un petit peu au studio, et lui a fait en sorte que pour le process de l'album, on ait tout qui soit ultra connecté, parce que Polo est un grand collectionneur de synthés. On a une cinquantaine de synthés.
Tu as ce genre de maladie.
Ah ouais, il a une addiction, mais qui est plutôt bonne et vertueuse, c'est qu'il a beaucoup de très bons synthés. Je le reconnais. Il a cette culture-là. Et en fait, Nicolas nous a aidé à ce que ce soit une cour de récréation, pour qu'en fait, le fait de faire la transition entre la souris et les plugins et les trucs, même si on a toujours travaillé quand même avec du vrai son analogique, mais on était dans un terrain de jeu physique et artisanale.
C'est quoi les bases un peu du studio, pour ce troisième album, les bases du studio, tu dis que t'es un collectionneur, est-ce que t'as par exemple quelques belles pièces, quelques beaux synthés, ou qui ont été en tout cas au centre de l'album, tout est connecté, je sais pas, tout rentre dans une console analogique, tout va dans Ableton, vous mixez ailleurs, enfin, c'est quoi un peu le setup global que...
Ouais, enfin, il y a une pièce centrale où il y a 32 pistes, donc 32, il y a des boîtes à rythme et des synthés, voilà, il y a des Moog, il y a des CS50, il y a du...
Narp 2600, Jupiter, ouais, Prophet, voilà, Oberheim.
Voilà, il y a vraiment une belle collection de synthés, mais aussi ouais, des roses, des pianos électriques, des machins, donc on a un petit peu tout ce qu'on veut. Et c'est vrai qu'avant, on était plus sur le micro enregistré des flûtes ou des petites percus tropicales, et là, on est plus passé à... on a toujours nos petits samples, mais on a, voilà, c'est plus une prod un peu comme dans un studio, voilà, avec aussi quelqu'un qui nous aide, donc c'est prod comme dans les années 80 ou 70, pas mal dans la bande, prise dans la bande, etc. Donc on se marre bien avec ça, voilà, justement à façonner le son d'une manière différente.
C'est vrai qu'il y a cette tierce personne, Nicolas, nous a vachement aidé à continuer de façon intuitive à faire les choses. Parce que c'est Thomas Bangalter qui nous avait dit ça, je sais qu'on a eu la chance de le rencontrer. Il nous avait dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais ne soyez jamais prisonnier d'un concept ou d'un procédé. Et en fait, on avait vachement envie d'être dans les machines et on a réussi à ne pas être prisonnier aussi de la machine. C'était hyper intuitif et hyper facile. Et dès qu'on avait une idée intuitive sur une machine et non plus sur un plug, on avait Nico qui était prêt à enregistrer. Donc en fait, l'idée qu'on pouvait avoir peut-être plus vite sur un live d'Ableton avec un plug et ensuite qu'on reproduisait en synthé, en fait, on l'avait directement sur un synthé. C'était hyper agréable. Et l'intuition, on l'a pas perdue tout en rendant hommage. C'est pour ça peut-être que l'album est plus disco et plus, parce qu'en fait on a procédé de façon quand même beaucoup plus vintage, quoi. Voilà, il est incroyable, le studio.
Vous interdisiez pas d'utiliser des trucs qui pourraient être anachroniques, c'est-à-dire un synthé avec un autre?
Ah, mais il y en a. Et puis même, moi, j'ai découvert au détour de mes recherches des nouveaux plugs qui sont, enfin, franchement, c'est le futur. Et on les utilise aussi, au contraire. Mais par contre, l'idée du terrain de jeu et de la machine, c'était hyper, hyper intéressant et c'était hyper agréable de le faire, ouais, sur ce troisième album.
Ouais, c'est vrai que sur les albums d'avant, on avait fait beaucoup de micro-samples, justement, de notes, de plein d'instruments un peu atypiques.
Et c'est ça qui faisait... dans un simpler, sur un Ableton.
Exactement,
on faisait des
simplers. Alors, on est moins dans le simpler, parce que pour que maintenant, les gens comprennent, dans... un simpler, c'est quand on prend un sample et qu'on le met dans l'ordinateur, et après, ça devient un clavier. On préfère enregistrer chaque note. On l'a souvent fait avec nos potes qui rentrent, on l'a souvent fait avec des copains instrumentistes où ils vont faire toutes les gammes. Et justement, pour pas dénaturer le son, on a même en fait fait des claviers de tous les synthés du truc au dos avec toutes les... Ouais. les...
Après, pour le live, ouais, on a samplé tout le studio aussi. Nico, il a samplé tout le studio. Ouais,
Nico, elle a
note par note,
tout le studio,
avec tous les presets. Enfin bon, on a une bibliothèque de ouf, mais ça fait 2 ans qu'il fait ça. Et quand on se promène dans notre Ableton, bah, on a le Moog, on a des presets de plein de trucs.
On a un dossier homemade.
On peut proder les maquettes avec tous les sons analogiques et ensuite, voilà, le refaire limite si on veut. Mais ouais, ça, c'était un truc important.
Malheureusement, on arrive bientôt à la fin de cette émission.
C'est passé,
ça a commencé juste à nerder là.
Bah ouais, mais ce qu'on peut faire, parce qu'on a quand même le temps, encore 10 minutes, disons à peu près.
Ouais, on a 10 minutes.
Je voulais qu'on fasse une partie sur live justement pour parler un peu
bien sûr.
C'est un peu compliqué.
On va essayer de pas être trop pointu pour que les gens comprennent.
Non, mais justement, je pense que la partie live, on va la mettre un peu de côté parce que il y a un truc qui est essentiel, enfin qui est important dans cette émission, qu'on aime en tout cas, dont on aime parler et dont on n'a pas encore parlé. C'est aussi un peu rappeler que être musicien, c'est un métier et qu'il y a plein d'à côté. Pas seulement la musique en elle-même. On a parlé du label. Alors vous avez même 2 labels, si je dis pas de bêtises.
Ouais.
Globalement, notamment au regard du certain succès que vous avez rencontré quand même, j'imagine qu'il y a eu des sollicitations, qu'il y a eu des opportunités commerciales, qu'il y a eu plein de trucs.
Bien sûr.
Et qu'il y a un moment où vous êtes dit, oula, là on va avoir besoin de gens sérieux à nos côtés parce que sinon on va pas s'en sortir.
Ah bah ouais, ça c'est une grosse partie et c'est vrai que c'est beaucoup. On est toujours avec la même équipe et je pense que ça a été notre bon choix, c'était de pas changer une équipe qui gagne. On a eu à plusieurs des intersections, des moments, des fins d'album, des fins de tournée, parfois où des sirènes qui viennent nous attirer en nous proposant des deals un peu mirobolants. Mais on a toujours pris la bonne, je pense, c'est vraiment une bonne décision pour nous.
On regrette aucune des décisions.
Ouais. Et la consistance, en fait, le fait juste d'avoir une famille aussi, enfin, voilà, de travailler avec les mêmes gens, c'est un vrai plaisir. Dans le sens où, en plus, on accomplit des choses qui vont dans un sens positif, c'est.
Mais les grandes étapes, qu'on a un peu de temps quand même pour développer cette partie. Les grandes étapes vers une forme de professionnalisation, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas d'entourage. Est-ce que très vite Rivolta sort, vous avez déjà l'entourage? Est-ce qu'il y a un moment où vous dites bon ok non, il va nous falloir peut-être un manager, label, ok on a à peu près compris, vous travaillez depuis longtemps avec ces gens-là qui sont des gens proches, etc. Je sais pas, est-ce qu'il vous a fallu un booker? Est-ce que quelles ont été un peu les grandes étapes vers une forme de professionnalisation avec le projet Poland Pan?
Alex a été fort là-dessus parce que c'est vrai que autant moi j'avais fait beaucoup de trucs de tentatives de disques, autant Alex il a beaucoup amené les gens autour. Et il a tout de suite amené des gens très qualitatifs, quoi. Voilà, Raphaël.
Bah, on s'en est pas séparés. Ouais.
Voilà, Raphaël, c'est quelqu'un qui peut nous accompagner toute notre vie parce que.
C'est qui Raphaël?
C'est l'un de nos deux. En fait, on travaille qu'en duo. C'est bien simple. On a deux producteurs. Ça fait depuis la genèse de Polo et Pan. Polo et Pan.
Je le note. Les deux.
En fait, on travaille avec deux labels indépendants, bien qu'on soit distribué par Virgin, qui est une super maison de disques. On est sur 50-50 sur deux labels indépendants qui sont Hamburger Records et Clair au Choc. On a un duo qui fait toute notre direction graphique, tout ça. Et on n'a jamais changé. Et on avait à l'époque aussi deux chanteuses. La deuxième par la force des choses est partie, mais il y en a plus qu'une qui est extraordinaire autant que l'autre. Mais on a travaillé avec duo et en fait je pense que on est accompagné quand même par des gens avec qui on a une telle proximité, une telle bienveillance que c'est assez transversal. Je peux pas te dire qui a fait quoi, même si évidemment Super était nos tourneurs avant, puis AEG était nos tourneurs, puis eux c'est le label, mais chacun est un petit peu le manager, puis c'est un espèce de petit fourbi, mais qui en fait hyper harmonieux puisque bienveillant, c'est cette famille, c'est cette je pense, ouais. c'est ça. Et puis le fait aussi qu'on ait nos vies privées qui soient assez respectées, qu'en fait on est pas du tout perdu dans là où on va.
Et parce que vous aviez déjà, en fait, même avant même de commencer Plan de Pan, des gens que vous connaissiez, etc., qui étaient déjà dans le sérail et qui vous ont accompagné. En fait.
Et puis on avait déjà l'expérience. L'expérience de la nuit, du risque, de la fame, de la cour, comme tu disais.
Alex, beaucoup plus que moi, qui avait vraiment fait le truc du baron, où ils avaient fait le tour du monde, ils allaient à Miami, machin. Il connaissait les gens, il connaissait mieux le milieu que moi et il était plus connecté d'une certaine manière. Et moi, j'étais connecté par la CIRA des... que des gens un peu psychés, un peu foufou, mais voilà, c'était beaucoup moins formaté. Et c'est ça, là aussi, on s'est vachement complété, parce qu'autant, voilà, il y en a, autant Alex a pu collaborer aussi avec des gens que j'amenais, voilà, et moi aussi, il a amené notamment Raphaël, qui est une personne assez discrète, on donnera pas son nom de famille, qui est notre, voilà, de Hamburger Records, et c'est moi, mine de rien, qui dit, j'aimerais bien qu'on travaille aussi avec Mathieu Gazier, qui est Éclair au Choc, notre deuxième label. Parce que Raphaël, c'est vraiment quelqu'un de transversal avec une grosse vision, mais il n'était pas vraiment dans le milieu de l'électro. Et Mathieu Gazier, c'était beaucoup plus un gars sur le terrain qui captait un petit peu ce que c'est que voilà, la musique électronique et qui était plus un profil de label. Raphaël, c'était plus un visionnaire, en fait. Il vient plus de la musique de cinéma, en fait. Et en tout cas, grâce à ces deux personnes de label...
C'est grâce à la dualité.
Ouais.
La complémentarité, fait, d'ailleurs, on atteste notre duo d'interlocuteurs de ce soir, qui
c'est
sont excellents.
Ouais.
On n'a pas parlé de vous encore, il nous reste.
Mais écoute,
j'ai besoin qu'on
dis,
parle de Flight Simulator, j'ai besoin.
Ah oui, on en a parlé en antenne.
J'ai besoin que tu nous racontes Salman, ça t'a. Je sais pas, est-ce que.
Est-ce que
faire du MMA parce qu'on te provoquait trop?
Là, clairement, le MMA, vu mon gabarit, ça aurait été compliqué.
Par contre, sur FIFA, il casse sur FIFA.
Putain, ouais. Il va me casser les jambes, je le sens. Non, si, je rigole. Il ne reste que deux minutes. Mais la complémentarité, je crois que c'est la force. Voilà.
Mais aussi les rencontres, le réseau. Enfin, on a bien compris que c'était la base, le réseau.
Le truc, c'est que par rapport à notre carrière et tout ça, en fait, il y avait tellement de 10 ans de DJ avant, tout le travail en amont. C'est ça qui a vachement aussi, qu'on a transformé des choses, on a su bien les transformer. Il y a beaucoup de parts de chance et que finalement, on a choisi des bonnes personnes. Ouais, le Kairos, mais on a choisi des bonnes personnes dès le début. Et donc, c'est un conseil un peu compliqué à donner. choisis les bonnes, enfin tu vois,
choisis les bonnes.
Mais en fait, je dirais le seul conseil aussi, c'est travailler longtemps, s'accrocher, et voilà, on touche pas tout de suite au sim. Si la passion peut me faire durer, moi perso, j'étais passionné de musique et je venais plus, j'ai fait une école de commerce, j'ai bossé chez Microsoft, je suis sorti un peu du truc. J'ai commencé à être DJ résident et mes parents, ils me disaient, mais tu fais quoi? Je kiffais et je gagnais pas beaucoup d'argent, mais je kiffais. Et j'ai suivi ça et j'ai flotté, et c'est ma capacité à flotter. Ensuite, aller vivre dans une usine, je suis allé plus loin. Mon père, il fait, mais t'as 30 ans, tu bouges en usine maintenant.
C'est quoi la prochaine fois? Tu vas y travailler à l'usine?
Non, mais bon, voilà, ils comprenaient pas du tout, ouais. Mais j'ai, voilà, suivre et flotter.
L'instinct, en fait.
Ouais. Et attendre ce bon moment, tout d'un coup, il arrive. Mais il faut savoir l'attendre. Il faut savoir le créer en se plantant. Aussi, le truc un peu à l'américaine, tu montes trois boîtes qui plantent et tout d'un coup, t'en fais une qui cartonne. Mmh. Bah, moi, j'ai fait des groupes qui ont foiré. Voilà, ça, c'est un peu mon parcours. On a des parcours différents. Alex, il était tout de suite un peu l'enfant béni du baron. Il a connecté.
Moi, j'ai traversé.
Il a eu ces trucs aussi.
Je peux raconter, moi, une anecdote, si tu veux, pour remettre en place mes erreurs. Hein.
Avec une cuillère d'argent dans la
tête. Vas-y,
je peux finir sur l'anecdote de l'arbuste. Il n'y a pas de problème. Justement, moi je suis arrivé très jeune dans ce milieu que je comprenais pas, de paillettes, de trucs, où j'ai, heureusement que j'ai eu des figures spirituelles qui m'ont dit tu vas fermer ta gueule tout de suite parce que tu n'es rien. Mais à l'époque où je croyais que j'étais vraiment Dieu, à 23 ans, je mixais au Baron et il y a une fille devant moi qui venait toujours me dire ouais, c'est très trop bien ce que tu fais. Je disais bah oui, j'avais 23 ans, elle me dit je me marie en Grèce, je veux que ce soit toi. Et donc je fais ok. Et donc je vais en Grèce, j'arrive à Mykonos, et puis là je me rends compte déjà en fait je suis dans un mariage de milliardaires, un truc, j'ai jamais vu ça, mais je fais quand même comme si c'était normal quoi. et j'arrive et je prends, ouais, à l'époque c'était mon truc, t'inquiète. Je commence à mixer et au deuxième morceau, en fait je me rends compte que c'est pas possible, je suis une erreur de casting totale quoi. C'est la première fois que je me trompe dans ce milieu, parce qu'en fait j'ai pas beaucoup d'expérience. Troisième morceau, je vous jure, je me suis reçu un arbre. Je suis comme ça, un arbuste de taille, je dirais 1m50.
Mais personne ne l'avait lancé, rassure-nous, cet arbre.
Le Kairos, ça c'est le Kairos.
A priori, quelqu'un l'a lancé, mais moi, je n'ai pas levé les yeux. J'ai fait comme si de rien n'était. Ouais. J'étais comme ça, j'étais complètement tétanisé à l'idée de ce premier échec.
Et ça, c'est tous les tricks d'Alex. Hein. Quand il se passe un truc, tu dis jamais, le monde jamais.
Show must go on.
Si ça bug, il m'a vachement appris ça. Mais là, voilà, c'est
sauf
beaucoup
que
des
là,
forces.
C'est de la tétanie, c'est au contraire. Alors là, c'est ouais. Tout ce qu'il faut pas. Et il y a le DJ Ident qui arrive à côté de moi qui fait t'en fais pas, mon pote. Allez, dégage.
Ah ouais.
Et je suis parti. Ouais, je suis parti, mais c'est à dire que. Et ça, c'est une de mes grandes.
Trois morceaux, quoi.
Bah, deux morceaux et demi.
Et un arbuste.
L'arbuste.
Ah ouais.
Ouais, il y a eu un avant et un après. Avant et après l'arbuste, mais très important ce genre d'expérience pour te dire rien n'est jamais fait, ouais. Et baisse le chauffage aussi. baisse le chauffage, mais il faut se prendre des claques. Il faut être bien entouré de gens qui disent tu fermes ta gueule aussi. Tu n'es rien encore. T'as le potentiel, mais. Faut que tu crois en toi, par contre, il faut toujours être bien accompagné. Il y a le pouvoir de dire non aussi. Il y a le pouvoir de.
Sur l'accompagnement, en une phrase, une synchro comme Apple, qui est quand même un graal, tu vois. Enfin, c'est parmi les boîtes dans le monde qui fabriquent des trucs. Apple, je pense que c'est parmi le plus haut, le haut du panier.
Mieux,
tu vois.
Vaut mieux Apple que Tesla, ouais, en soi. Ouais.
C'est qui négocie une synchro comme celle-là? C'est Apple qui vient vous voir? C'est les gens qui bossent avec vous, qui essayent de pousser les morceaux?
C'est les gens qui bossent
avec
Apple.
On a une fille qu'on peut nommer, qui s'appelle Cécile Bacou, qui est incroyable et qui justement sur la partie un petit peu plus business, notamment synchro, ce qui est un monde quand même. Et il s'avère que c'est vrai qu'on fait une musique qui est assez visuelle, où ça colle pas mal à l'image. Donc on a eu cette chance, voilà, inouïe, de faire directement un groupe comme Apple, que je considère plutôt comme vertueux. C'était à l'époque de Steve Jobs, donc on était qui est un visionnaire pour moi, qui était un grand grand visionnaire.
Les gars, c'était hyper intéressant. On aurait pu faire au moins une demi-heure
bon cours,
de plus.
Encore une fois,
ouais, on aurait pu rentrer dans les geekeries, etc.
Bon. C'était très agréable.
On se fera une revanche
amis.
Avec grand plaisir. Ouais. Franchement, c'était super sympa.
Quatrième album,
c'était trop cool. Ouais. Trop cool de nous inviter,
avec
les amis.
Avec plaisir. Merci à vous. On termine très très brièvement, vous savez, avec cette fameuse tradition, les recommandations. Est-ce que vous avez en tête le morceau que vous voulez faire découvrir aux gens?
Ah, moi j'en ai un. T'en as un, toi?
Ouais, j'avais... Alors, Pellegrino, le nouvel album de Pellegrino. Attends, j'ai pas le morceau en tête, là.
Ouais.
Mais je vous invite juste à découvrir son album. C'est un artiste de Naples. Et toute la scène de disco napolitaine, c'est vraiment de la balle.
Alors le dernier album, est-ce que c'est Koiné? Je sais pas comment ça se prononce. Koiné,
ouais, c'est
Koiné.
Ouais, c'est Koiné. On peut écouter La Mala del Sur.
Allez.
La Malia del Sur.
Super cool ça.
Ouais, très sympa.
Ouais.
C'était pas forcément le meilleur de l'album, j'avoue.
Non, mais c'est.
Il partait pour un coup. Ouais. Mais l'album est super cool et la scène napolitaine en général, New Guinea aussi, c'est génial. Donc.
Là, c'est étonnant. Il y a un mélange de plein d'influences. À la fois un peu de jazz, à la fois un peu presque un peu flamenco et un peu plein de mélanges.
C'est cool. C'est produit en 2025. C'est intéressant de voir que les voix sont vraiment cool, quoi. Je trouve la palette vocale elle est géniale.
Alex.
Là j'ai des copains de nous deux qui ont sorti un album il y a pas longtemps et justement qui est, j'ai trouvé parmi les morceaux qui a pas mal de choses aussi assez déroutantes dans sa direction. C'est il s'appelle Oracle Sisters. Ils ont fait quelques premières parties. Blue Left Hand, je crois que j'aime beaucoup justement, complètement
Et bien je le vois.
Bah voilà.
Ça coûte ça ?
Allez.
Étonnant ça. Daz.
C'est le plus. Ouais. C'est le rôle le plus bizarre que j'ai jamais
entendu. Ouais, il est très étonnant.
Attends, j'ai oublié le gaz.
Mais au moins, il retient ton attention, tu vois.
C'est un nouveau genre. Je pense qu'ils ont créé un nouveau genre avec ça. Je suis trop content que t'aies laissé ce moment. C'est questionnant.
Daz, t'as reco. Ou est-ce que j'enchaîne ou tu l'as déjà
trouvé? Non,
toi
j'ai. Ouais, j'ai. Allez, on va partir sur un des premiers albums que j'ai acheté de ma vie. C'était un MC qui s'appelle Sunny MC, c'est un rappeur qui faisait partie du 500 One Posse de MC Solar à l'époque.
Comment s'écrit Sunny?
Sun comme rap, tôt, tu vois, Sun.
Attends, d'accord. Hop. Sun.
Voilà. Et le morceau, c'est Élucider ce mystère. Oh, c'est ambiance film noir, un mec a disparu, avec le flow à l'ancienne de l'époque, on était vraiment prêt time bomb. Vraiment à l'époque.
Time bomb.
Mais on était donc sur un rap très scolaire, carré, donc pas ouf en vrai. Mais moi j'aime bien ce morceau parce que je trouve que l'instru de DJ Sick est très très cool.
Bah écoute, on s'écoute ça pendant que Polo nous a quitté, mais il sera là quand
il est parti,
je pense.
Allez,
à tout de suite. We'll be right back.
14 ou 15, il avait disparu. Dans le quartier du port, nul ne s'en était aperçu. Certains points sont tombés sur sa disparition, n'est pas clair. Une seule façon d'en savoir plus, c'est lucider ses mystères. Avec esprit de méthode, 500 one. Mon unique code pour poursuivre ma tâche dans un destin déterminé. Groupé méthodiquement les indices pour vous démontrer la responsabilité des gens de ce quartier. Ne pouvant accepter la présence d'un étranger, en l'occurrence ce clochard, cet homme loin de tout soupçon, disparu de façon bizarre sans aucune explication. Je pense avoir mon idée, mais elle n'est pas fondée car il faut des faits, des preuves écrites, orales pour élucider ce mystère.
C'est hyper bien ça aussi. On voit la vibe solar effectivement.
Très jazzy, rap jazz soul. De toute façon, c'était le nom de l'album de l'EP de Sony MC. Donc, mais tu vois, très scolaire. Le mec qui cherche un SDF qui a disparu.
Mais c'est ce genre de storytelling, ça fait du bien aussi.
Ouais, c'est rigolo. Ouais, ça, c'est marrant. C'est rigolo. C'est un truc qui se fait plus trop maintenant. Donc voilà, Sony MC élucider ce mystère. Sony MC d'ailleurs qui a été repris récemment parce qu'il était featuré. Je crois que c'est dans avec un morceau qui s'appelle Sur le boulevard du rythme funky dans un documentaire Netflix ou une série Netflix. Et du coup, ça. Les gens se sont mis à le réécouter un peu comme Kate Bush avec Stranger Things, donc voilà, beaucoup de respect pour le 9-4, bien sûr.
Incroyable. Nice. Écoute, alors, alors tu sais quoi, ça arrive parfois, c'est via des séries, via des films et tout, que tu découvres de la musique et tout.
Ouais.
Là, c'est une BO en fait. Je vous invite à aller. J'ai regardé Good Time des frères Safi, je sais pas si tu vois, et les qui ont fait aussi Uncut Gems par exemple, ce film sur Netflix, qui est absolument incroyable, chef-d'œuvre.
Avec Adam Sandler. Sandler, là, absolument barré le film.
Et donc ces deux frères, en fait, souvent quand ils font des films, c'est le cas sur aussi Good Time, dont est issu le morceau, la BO de Good Time. Ils bossent avec One Trick Point Never, je sais pas si vous voyez ce musicien, qui est un musicien de musique électronique un peu ambiante plutôt, que je trouve absolument fabuleux. Et là, c'est un peu plus vénère sur Good Time que sur Uncut Gems, par exemple. Mais je vous invite vraiment, j'invite vraiment les gens à aller écouter les BO de One Trick Point Never et de manière générale sa musique. Et j'avance un peu parce que tu vois, il dure 4 minutes et c'est vers 2 minutes 30, tu vois, que j'aime bien ce moment. Un peu.
Ah, on peut faire ça, genre. Ouais. Pas de me le dire.
C'est vrai, il y a un moment qui se plaisait,
comment ils se
pour le droit, pour le
les modérateurs.
Mon morceau, c'était une intro de 3 minutes.
Mince, mais il fallait me prévenir à l'avance, j'aurais pu avancer.
J'avoue, je le connaissais pas.
Bon, je mets ça. Allez, c'est parti. C'est Hospital Escape. Access a ride to One Trick Point Never sur Good Time. Que dans la scène t'as les poils mon gars avec cette musique et tout.
Tu vois, c'est une guitare, je croyais que c'était une guitare disto.
Ah non, c'est un synthé avec tu sais avec le pitch bend un peu, je pense qu'il joue un peu comme ça, tu vois, pour le côté un peu vibrato.
Oh, c'est ouais, on sent quand même que on est dans une ambiance
Darkos.
Ouais, c'est un peu brosson quand même.
Ouais, c'est un peu brosson. Ouais. Le film est hyper bien et allez voir Uncut Gems, il est dispo sur Netflix.
C'est peut-être à cause de toi que je l'ai vu Uncut Gems parce que j'étais là en mode mais qu'est-ce que je regarde putain.
Tu l'as bien vendu là. Je suis
avec Adam Sandler insupportable.
Ah ouais non mais bah, le film a un rythme genre je l'ai regardé avec ma meuf, elle a détesté. Enfin elle a pas détesté mais genre c'était
avec
trop.
La mienne,
c'est trop.
Ouais, elle a dit c'est chelou aussi.
C'était trop, c'est intense tout le temps, mais c'est le but tu vois, c'est une expérience que tu vis.
Un film expérience avec Adam Sandler.
Oui. Improbable.
Il en a fait un. Ouais. Comment il s'appelait là? Celui en costume bleu, là, Ah, je me souviens plus, mais il a déjà fait un ou deux films un peu pointus.
Tous des avec Adam Sandler, vous me faites tous peur. Bah, sachant qu'on a fait, nous, un morceau à cause d'Adam Sandler.
Ouais, hein. Magic, c'est le sample, ça vient de Happy Gilmore, le film, avec Adam Sandler, le meilleur film, là où il est un pro de golf.
Meilleur film.
Et il y a Magic, le morceau dans ce
morceau de Pilot à l'origine.
Que j'ai entendu dans le film et j'ai fait, waouh, il faut faire quelque chose avec ça.
Et ben voilà, Adam Sandler, les gars, vous reviendrez sur un autre projet, je sais pas, mais un truc, on prendra le temps de parler de geekerie, etc.
Ah, avec grand plaisir.
Encore merci évidemment à la Bouclette, Iris, Sam, Flavien, merci aussi à François évidemment pour le montage, merci à Thoman aussi qui accompagne ce podcast. J'imagine que vous avez déjà acheté chez Thoman.
Aujourd'hui,
wow. C'est aujourd'hui même.
J'étais.
À bientôt, ils font les commandes pendant l'émission.
On leur dira, tiens, on leur met un couteau sous la gorge. Commande de tuer sur
au moins un câble.
Et puis évidemment, merci aussi à vous de nous suivre.
Bien sûr.
On se retrouve dans 15 jours. Ce sera un nouveau sujet, de nouvelles personnes. Ce sera forcément bien.
J'espère.